Bonsoir les amis, bienvenue dans ce stream qu'on a intitulé La force du collectif, où on va parler des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, de comment on se prépare, de qu'est-ce que c'est les Jeux dans la vie d'un athlète, de l'importance du collectif, y compris dans les sports les plus individuels. Bon, je vous fais pas tout le sommaire tout de suite. Vous aurez noté qu'il y a un truc très étrange sur ce plateau, il y a des fruits.
Ça change de d'habitude.
En 4 ans de stream sur cette chaîne, je crois que c'est la première fois qu'on voit des fruits. Parce que d'habitude, on est assez junk food, il y a beaucoup de bonbons gélifiés,
bien sûr.
Beaucoup de sodas très sucrés.
Voilà. Il y avait des gougères aussi, je me souviens.
Voilà, oui, à une époque, il y avait même un ami cuisinier qui n'a fait la cuisine. Et là, comme on est avec des athlètes, enfin...
Non, moi, je suis non.
Ah bon, on l'a vu, elle a montré des marches, elle était déjà essoufflée.
C'est ça, où sont les gâteaux.
Comme certains parmi nous sont quand même des athlètes et... sont à quelques semaines des Jeux Olympiques, je me suis dit, Samuel, il faut que tout soit sérieux. Donc, il y a des cerises, des abricots, des bananes, des figues. Voilà. Ça y est. Certains nous amènent déjà sur le terrain social. C'est incroyable. Ça, c'est Twitch. Il y a un mot qui dit, ça prouve que vous êtes riche. Voilà, parce qu'on a acheté des fruits.
Oui, c'est vrai. Non, c'est une grosse marque. Ouais. Tout à fait, exactement.
Ok, c'est vrai.
On a moyen de payer des fruits au beau milieu de Paris qui coûtent très très cher.
C'est pas faux. C'est pas faux. Ce sont des fruits en trompe-l'œil. Non, que la macoquine, ce ne sont pas des fruits en fraude.
Je le pouvais, ouais. Voilà.
Maintenant, elle va vider le bol de fruits.
C'est ça.
Manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, exactement. Tout à fait. Bon, ça c'est la petite différence par rapport à l'habitude. Sinon, c'est comme d'habitude. On est entre gens de bonne compagnie. On a eu l'occasion en plus d'échanger tous les trois. Rivenzi, on se connaît.
Tout à fait.
Il y a quelques jours en visio, merveille de la technologie, ce qui nous a permis de faire un premier contact. Et je me suis dit que bon, ça allait être un joli stream. Tout part de quoi? De deux choses. À l'origine de ce stream, il y a à la fois une équipe, une team, la team Décathlon. Voilà. Et d'ailleurs, merci Décathlon, parce que c'est eux qui sont à l'origine de ce projet et de ce stream. Donc, il y a une team Décathlon dont on va parler, dont Johan Diniz est le manager, le papa. Enfin, on va essayer de définir le titre, hein, qui est hyper intéressant. Et il y a un documentaire, voilà, réalisé par Anna, voilà, qui est avec nous, Anna Rosselin. Le titre de documentaire, c'est « On se revoit à Paris ». Paris, c'est les Jeux, bien sûr, olympiques et paralympiques. Documentaire sur... Bah, sur cette équipe, mais pas seulement en fait. C'est aussi sur comment on se prépare à des jeux et sur l'importance du collectif, des liens, de la famille, des amis.
Des racines
dans la préparation d'un événement comme celui-ci. C'est ça, Anna ?
C'est ça. Et je pense même dans le parcours en fait, d'un athlète ou d'une athlète, pourquoi, en fait, à quel point les rencontres en fait, sont importantes. En fait. Je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a ouvert en fait, le sujet. Au-delà des Jeux paralympiques et olympiques, pour parler aussi du parcours personnel de chaque athlète.
Mais ça, vous pourrez le voir, parce qu'on va vous inviter aussi dans ce stream à regarder ce documentaire. Si vous tapez !docu !documentaire !Décathlon, vous trouvez. Voilà, je suis un peu le roi du bot. Voilà, vous trouverez. Et vous aurez le lien qui vous renvoie à France Télévisions, parce que c'est France Télévisions, on en parlera, qui diffuse en fait le documentaire.
Ah, voilà. Trop bien.
Il est disponible depuis quelques jours là seulement.
Depuis le 14 juin.
Le 14 juin sur la plateforme de France Télévisions. Peut-être que je vous présente mes invités. Commençons par celui qui a un peu son rond de serviette ici.
C'est vrai.
Qui connaît bien la maison, qui est Rivenzi. Le Rivenzi, le vrai, comme
c'était noté, effectivement. Là. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, je suis trop content de pouvoir parler des jeux, pouvoir parler aussi, moi qui fais des documentaires sur ma chaîne YouTube qui parlent d'histoire, pouvoir parler un peu de comment est-ce qu'on raconte une histoire, comment tu racontes des histoires. Donc, non, c'est trop chouette et je suis trop content d'être là.
Merci, Rive. Passionné d'histoire. Effectivement, en plus, tu as des docs en ce moment qui sont hyper intéressants sur ta chaîne et de sport, bien sûr.
Exactement.
Et de sport.
Tout à fait.
Voilà, et puis, je me dis que si je dis une énormité sur le sport, tu sauras me corriger parce que tu as une culture du sport que je n'ai pas.
Et surtout, il y a des athlètes et parathlètes qui sont là, donc on va en profiter.
Je continue, tour le table. Anna Rosselin, donc réalisatrice.
C'est ça.
On parlera peut-être un petit peu de ton parcours aussi, ce qui t'a amené à faire ce documentaire, parce que je crois que tu t'intéresses à beaucoup de choses.
Ouais.
Anna, je salue le petit frère d'Anna qui nous regarde, qui, je crois, nous écoute aussi. Nantonin Keïta. Nantonin, comment ça va?
Ça va très bien.
Je suis très heureux de te recevoir.
Merci.
Parce que moi, je t'ai découvert notamment par le documentaire. Mmh. Voilà, et j'ai vu de belles choses dans les individualités qui composent ce documentaire. Et du coup, j'étais très heureux de te recevoir à la maison.
Merci.
Nantonin, athlète, para-athlète, championne, des titres européens, mondiaux, olympiques.
Paralympiques.
Paralympiques.
Ouais.
Rien que ça.
Après, des titres paralympiques, non, un titre paralympique.
Oui, je fais un package. Je fais un package. C'était quelle édition
c'était ? Ceux de Rio. Et un Rio, je fais une médaille d'or sur 400 mètres.
Sur 400 mètres. Mmh. Spécialité 400 mètres. Ouais. Mais pas seulement, je t'ai illustré sur d'autres distances.
Oui, j'ai fait du 100 et du 200 mètres aussi. Ouais. Voilà.
Mais ta discipline de prédilection, c'est...
Alors, c'est pas de prédilection, c'est qu'on m'a dit que si je voulais une médaille d'or... C'était sur le 400 mètres. Mais si j'avais dû choisir, j'aurais choisi le 100 mètres.
Ah, c'est parce que épreuve, c'est l'épreuve reine, c'est...
Non, c'est parce que par rapport à mes qualités et D'accord. mes défauts, ouais. et par rapport à voilà, mon corps et mon état d'esprit, okay. bah, c'était plus un état d'esprit de coureuse de 400 que de 100 mètres.
Ouais. Tiens, il y a Amo qui dit « J'ai découvert Nantenin le jour où ils avaient mis Joule sur la flamme. » Mais au moins, ça m'a permis de découvrir. Pourquoi t'étais à Marseille le jour
D'accord, c'est okay. moi qui ai donné la flamme à Joule.
Je la kiffe force problème. À elle, voilà, verrière, voilà. Une reine, me dit Oklama Coquine. Ok, formidable. Bonjour le petit frère d'Anna, chacun fait un petit salut. Ok. Et tu pouvais, question indiscrète, tu ne pouvais pas faire les deux ? Tu ne pouvais pas t'aligner sur 100 et 400 ? Comment ça se passe ?
Alors là, pour les Jeux de Tokyo, c'était compliqué parce que j'étais blessée et que. Enfin, voilà. Mais là, à Paris, je suis en négociation. Très, très dur avec mes entraîneurs.
Tu es en train de dire que tu peux peut-être...
Là, c'est un scoop en plus. Hein.
Faire Attends. Le 100 et le 400, ouais.
Ah
Je suis en négociation.
C'est dur parce que c'est vraiment pas les mêmes distances et tout.
Non, c'est pas les mêmes, ouais, mais après, l'idée, c'est de... Je m'entraîne pour le 400 ouais. et puis le 100 mètres, je fais ça pour me détendre.
Oui, donc, oui, ok, ça va.
Donc, on a une double médaille possible, quoi.
Oh là, t'emballes pas quand même.
Ah, oui, voyons le 400 déjà. Voyons le 400.
Voilà, c'est ça.
Johan Diniz. Johan, j'ai déjà du Diniz incroyable de la part de Loki. Oh, j'ai une petite bague de kiné que j'attendais, kiné 22. Hein, je vous dis les pseudos. Encore, là, c'est des pseudos qui peuvent se lire. Parfois, il y a des pseudos qui sont très surprenants. Vous en verrez tout à l'heure sûrement. Kiné qui demande, est-ce que Johan est venu en marchant ?
Ah, forcément.
Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, Johan est un immense champion de marche rapide, je crois que c'est
marche athlétique.
Marche athlétique,
le terme,
pardon.
Voilà. L'athlétisme, voilà. Ancien athlète.
Immense champion. Champion du monde.
Ouais, j'ai été champion du monde.
Recordman.
J'ai fait 4 fois les Jeux Olympiques, ouais. Les recordman du monde du 50 km et du 50 000 mètres sur piste. Ça, j'y tiens aussi. Faire 125 tours autour de la piste.
Non, mais ça, c'est quand même... Ça, c'était vraiment une discipline de fou.
Voilà, c'était sympa. Oh là, faire 125, 400 mètres.
C'est... La légende, tu vois, la légende. Diniz le Goat, voilà. Je me rappelle de ce monsieur. Bah oui. Que des légendes sur ce plateau. Bah, ah, ouais, c'est gentil, clair. Ça. Ça me fait plaisir, merci beaucoup.
Comment tu vas, Samuel, d'ailleurs?
Bah, moi, je vais bien.
Parce que toi, tu prépares ce stream, mais je sais ce qui va se passer juste après ce stream aussi. Donc...
Oui, il y aura un petit peu de gaming.
Voilà, exactement. Non, mais profite qu'il y ait des gens chez toi. Profite de te sociabiliser un petit peu, voilà, discuter non, avec les gens.
Ce stream me fait plaisir aussi parce que ça nous sort un peu de cette séquence actualité, on va dire, politique en ce moment,
ouais.
qui est un peu dense,
oui.
voilà, qui est un peu anxiogène aussi parce qu'elle est, historiquement
ouais, très forte.
Très forte et nouvelle. C'est une équation qu'on n'a jamais rencontrée. Qui est en train de se passer, donc ça nous demande beaucoup d'énergie aussi dans le suivi. Donc tous les matins, on est là-dessus. Mm-hmm. Et je vous avoue que parler aussi d'autres choses, et par exemple des Jeux Olympiques et Paralympiques, ben, je trouve que ça fait du bien. Quoi.
Et de belles valeurs.
Ouais. Et je me demande d'ailleurs si... parce que vous savez, dans les quelques mois qui ont précédé les Jeux, il y a eu des débats, des polémiques, nécessaires d'ailleurs sur tel ou tel aspect, écologique, sûr. Logement, citoyen. Et c'est important d'avoir eu ces débats. Ça montre qu'on vit dans une démocratie. Et que le débat est possible. Mais c'est intéressant de voir aussi à quel moment on se pencherait vers l'aspect sportif, dépassement des athlètes et des para-athlètes. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver dessus. Et je me dis que cette séquence sportive, elle peut-être nous permettre aussi de penser à autre chose. Ouais. Se changer un petit peu les idées. Bravo, monsieur Diniz, pour cette belle carrière. 100% Johan, il est un gecko. C'est une ref à Valo, ça. C'est un jeu vidéo. Ils sont très jeux vidéo. Ouais. Samuel, le marathonien aussi à présenter. Oui, enfin bon... Ton record du monde.
Ouais.
Record du monde.
3h32 minutes et 33 secondes. J'ai ta question en fait. Je suis passé en moins de 3 heures au marathon à Zurich. Je crois que je suis passé aux alentours de 2h58-30
sur
la base du marathon. Ouais, ouais.
Et parce que la durée qu'il nous a donnée, là, c'est pour quelle distance du coup ?
Le 50 km, ça c'est mon record c'est du monde.
D'accord. Parce qu'en fait, la
En marchant.
Oui, la fameuse marche. parce qu'en fait, le format, c'est 50 km.
C'était le 50 km, D'accord. ça s'est arrêté à l'issue des Jeux de Tokyo
D'accord.
en 2020-21.
Ouais, et puis
maintenant, en fait, c'est un format, c'est un relais. Ouais. C'est un relais sur marathon. Donc, il y a deux athlètes, un homme et une femme. qui vont se transmettre deux fois le témoin. Et puis,
qu'est-ce que tu me dis, Joe?
Ça, c'est très drôle.
C'est quoi ça, Joe?
Je crois que c'est un...
C'est un film,
c'est Malcolm, non?
C'est Malcolm.
Ok.
Et donc maintenant, c'est un relais masculin-féminin?
Ouais, c'est un relais. Donc c'est une équipe, il y aura 25 équipes au départ des Jeux Olympiques. Donc sur une distance d'un marathon, l'homme fera 12 km 195. Après, il donnera son relais à une fille qui fera 10 km. Il refera 10 km derrière et elle refera 10 km.
Ah, c'est pas mal.
Donc c'est et en fait, pour l'instant, il parlait beaucoup de mixité, de durée aussi, d'effort, ce qui était l'effort qui était trop long. Et pour l'instant, on est sur des temps... d'efforts et donc des temps de vision qui vont être entre 2h55 et 3h. Donc en gros, on n'est pas c'est aussi pas si loin différent. Que ça que, ouais, que le 50 km. Donc finalement.
Est-ce que c'est découpé finalement?
Ouais, c'est beaucoup plus découpé, etc. aussi. Oui.
Et en plus, la marche olympique, c'est éminemment technique parce que tu as toute une question aussi de pénalité parce que tu dois poser tes pieds, tu dois pouvoir décoller les deux pieds.
Voilà, tu dois avoir tout le temps un appui au sol.
Pour que ta marche ne soit pas requalifiée en course finalement.
En course, voilà. Toujours un appui en contact avec le sol. Et puis quand on vient poser sa jambe, en fait son pied au sol, il faut qu'on ait la jambe tendue. D'accord. Sinon, c'est une seconde faute.
Mais attends, ça veut dire qu'il y a un arbitre qui est sur tes mollets
T'as toujours quelqu'un sur un parcours, t'as entre 8 et 9 juges sur un parcours et qui te regardent et ils peuvent te juger qu'à l'œil humain. Donc ça, c'est aussi toujours la subjectivité aussi, de la marche athlétique.
Parce qu'il faut que tu ailles vite, mais en même temps que tu te dises, attends, là, il faut que techniquement je sois bon dans le contrôle au 45e et 50e kilomètre. Tu vois. Quoi. Ouais, ça, c'est fou quand même.
Et qui dit subjectivité dit parfois, ah bah on te voit, Johan, je crois, ici, on a vu les images à l'instant.
Jury, quoi.
Ouais, qui dit subjectivité dit parfois des décisions d'arbitre qui peuvent être contestées.
Il y a eu un petit peu à une période.
Bien sûr. Bon, les amis, alors un petit menu. Certains ont des obligations familiales ici après. Alors, certains vont jouer aux jeux vidéo, puis certains ont des obligations familiales. Donc un petit menu. Moi, je vous ai proposé de diviser ce petit échange en trois temps. D'abord, peut-être un temps sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi c'est si important dans la vie d'une sportive. Certains connaissent bien ici. Alain, t'es qualifié sur quelle épreuve, toi?
Sur le taekwondo, on en a parlé avec Johan.
Qui est olympique ou qui n'est pas olympique?
Bien sûr,
c'est le karaté qui
me dit. Oui, exactement.
Ouais. Gros débat sur le karaté. On va parler des jeux, notamment de ceux qui les consomment en passionnés et de ceux qui les pratiquent. Voilà. Deuxième séquence, les jeux aventure individuelle, mais aussi aventure collective. Et comment le collectif, y compris dans les sports individuels, y compris dans l'athlétisme, c'est extrêmement important. Et ça nous permettra de parler de la team Décathlon aussi et de ce que vous y faites. Et puis un dernier temps, un petit focus sur le documentaire On se revoit à Paris, d'Anna. Voilà. Comment ça s'est construit, comment tu l'as construit, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce documentaire. On passera. Vous savez quoi d'ailleurs? Dans un instant, on va passer un premier extrait, qui est le début du doc, pour vous donner une petite idée de ce doc dont je parle depuis le début. Et on regardera un deuxième extrait à la fin. Et n'oubliez pas, pour l'exclamation docu, ou pour l'exclamation documentaire, et vous avez le lien pour voir ce documentaire après le stream, par exemple. Je crois que c'est un 52 minutes.
C'est ça.
52 minutes.
Tout à fait.
Et c'est hébergé par France Télévisions. Joe va nous montrer le premier extrait. T'inquiète, Joe.
Au début, on s'est posé la question. Est-ce que c'est 24, 48, 72, 80, 50? Puis finalement, c'était 33 athlètes. Was in sixth place. La team des 4, c'est aussi une petite famille. Une petite famille de sportifs, de champions.
Il n'y a pas le sport mineur, il n'y a pas le sport majeur. On est tous à la même enseigne, tu vois, ça qui est beau.
On est tous et toutes très différents. Pour autant, on s'entend tous.
La flèche de Romain Cana.
Je pense que ce qui nous lie, c'est qu'on a tous et toutes le même rêve d'aller au jeu, de faire la meilleure perf au jeu possible et de repartir sans regret.
On a énormément de choses à se passer, à partager.
Il y a un vrai lien de cohésion qui s'est fait entre les athlètes du team.
On a un projet commun, on avance ensemble, on se déchire ensemble.
Voilà, on n'avance jamais tout seul, t'as une équipe.
Plein d'individualités ensemble, ça crée en fait un fort collectif.
Spins off and down. La médaille d'or.
Il est champion du monde.
Le championnat du
sacré championne de France.
Il est champion olympique.
On a accompli un exploit cet après-midi.
La possibilité d'une médaille pour la française devant Kira Toussaint.
Pour la finale des Jeux Olympiques, une première dans l'histoire du volley-ball français.
Bravo Anna, J'ai quelques premiers commentaires là déjà. Ça a l'air trop bien, me dit Poulidor, qui est un ami de la chaîne. Les images sont magnifiques, Lilou Rennaise. Alors le bonheur du chat, c'est aussi des commentaires que vous n'attendiez pas. Mmh. Comme par exemple Floxit qui nous dit vraiment content en passant des vêtements de rando 500-900 de Décathlon. Perso, je porte mon pantalon Quechua fort classe tout le temps, sauf sexuel. Merci beaucoup Floxit pour cette participation.
Parce que aussi, ça, Décathlon.
Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure est-ce que Décathlon offre des trucs, genre les mecs qui viennent pour avoir des t-shirts, des chaussettes. Non. Mais ils nous offrent en fait l'émission, le live et le documentaire. Voilà.
Mais il y a une très belle collection JO à Décathlon.
C'est vrai, spécial jeu.
Ouais.
D'accord, okay.
Complètement, oui. Okay, okay. Manteau.
Non, mais elle est... moi, je trouve qu'elle est
très
belle.
Bien
non, je dois demander à lui sincère.
Les jeux, les amis, les jeux à cette table, il y a deux d'entre nous qui ont participé à des Jeux olympiques et paralympiques. Bon, ça, c'est une expérience incroyable. Dites-moi tous les deux, en quoi, puisqu'on entend souvent cette phrase, dans la vie d'un sportif, les jeux, c'est le Graal. C'est, pourquoi on dit ça ?
Zinanto.
Non, je t'en prie. T'es l'aîné.
Je suis l'aîné, mais en plus, on a fait les mêmes, je crois.
Non, c'est une façon sympathique de
on
dire...
On a commencé en 2008
tu es le vieux.
Ouais. Tous les deux.
J'ai commencé en 2008,
on
ouais.
On a commencé en 2008 tous les deux.
Ah, c'est vrai. Vous commencez ouais. L'aventure olympique tous les deux en
oui,
2008.
Oui, en même temps, en 2008 à Pékin, quoi. Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Ben, c'est quoi, c'est... Pour moi, enfin, c'était... Ben, en plus, avec Nantenin, enfin, je ne sais pas si on a la même carrière, mais en tout cas... Tous les deux, le haut niveau, ça nous est un peu, enfin, ça nous est tombé dessus un peu comme ça, par accident, mais aussi par des découvertes et des rencontres. Jamais je me serais attendu à faire les Jeux Olympiques dans ma carrière. Et oui, bah, après, une fois qu'on y est, c'est sûr que bah, t'as un premier cap avec les championnats d'Europe, les championnats du monde en athlétisme et les championnats du monde en athlétisme et en parathlétisme. Je pense que c'est déjà il y a déjà énormément de nations qui participent à ces championnats. On est un sport qui est très universel. Il y a plus de 200 pays qui participent aux grands championnats. Donc on a l'habitude déjà d'y voir beaucoup de monde. Mais les Jeux Olympiques, là, c'est décuplé avec tous les sports, avec tout un univers qui est autour de ça. On est dans un village fermé qu'avec l'ensemble des athlètes. Et ce qui est la magie aussi, c'est que je me souviens à Pékin, on pouvait manger à côté d'un Kobe Bryant ou d'un Raphaël Nadal, et c'était plutôt eux qui étaient impressionnés de voir des athlètes. En fait, c'était des athlètes de la NBA ou de l'ATP qui sont des grands champions à nos yeux. Et là, ils se retrouvent, ils sont comme des enfants de se retrouver en fait avec toute cette famille en fait de sportifs. Donc c'est très, ouais, c'est hyper particulier. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'élan, beaucoup de respect, beaucoup de diversité, bah, tout ce qui fait les valeurs du sport, quoi. Et c'est beau quand tout le monde est mélangé comme ça. Il y a beaucoup de couleurs en fait dans les Jeux Olympiques et c'est hyper beau. En tout cas, ça c'est vraiment la partie qui est très belle des Jeux Olympiques. Pour moi, c'est cette diversité, ce multiculturalisme, en fait.
Nantenin, toi,
moi, mais moi, c'est vrai que quand j'ai fait les championnats du monde en 2006, et ben après, il y avait les Jeux, et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde était super excité à l'idée de faire les Jeux. Et moi, j'ai dit, en fait, à la personne qui s'occupait de moi, je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi il y a un tel engouement derrière les Jeux. On va se déplacer, on va prendre l'avion, tout pareil.
Ouais.
On va rencontrer les mêmes pays, les mêmes concurrentes. Il y aura un défilé, tout pareil. Et je ne comprenais pas. Et en fait, quand je suis arrivée au jeu, déjà, quand je suis arrivée au village, j'ai dit, ah ouais, il y a peut-être une petite différence, là.
Tellement pragmatique, Antonin, mais ce sera une piste, comme d'habitude.
Mais non, c'est ce que je lui ai dit. C'est la même piste, il y aura deux virages. Je vais arriver, je vais souffrir tout autant. Et en fait, quand je suis rentrée dans le village... J'ai dit, ah oui, là, il y a une autre atmosphère. Mmh. Et clairement, il y a une atmosphère différente parce que, comme le disait Johan, on va tous se balader, peu importe le sport qu'on fait, peu importe la nation. On est tous là pour la même chose, pour le même rêve et on avance tous comme ça, en fait. Et après, quand la flamme paralympique ou olympique s'allume dans le stade, là, on se dit, ah ouais, en fait, on est en train de vivre un truc de dingue.
Mmh. Tu vois, il y a César qui dit dans le chat, un athlète ne peut que reconnaître le talent d'un autre athlète, hein, tout sport confondu, parce qu'ils font tous des efforts énormes, des sacrifices pour être au top, et il ne peut y avoir que du respect. Il y a un message mignon de Red Voltage. J'ai une épreuve bac de spécialité sport demain, probablement sur les Jeux. C'est incroyable que tu fasses cette émission à ce moment-là. Merci, Samuel.
On va avoir des petites billes pour demain.
Il y a des gens qui sont étonnés aussi parce qu'ils trouvent... C'est là, je vois l'image, je comprends, tout à fait. Théo et Johan, ils disent, mais c'est incroyable, ils sont si massifs. C'est un effet de caméra. Non, non. C'est juste que là, il y a deux gabarits et puis il y a deux...
J'ai pas remarqué que Johan était si grand que ça.
Moi, j'ai grossi, moi. J'ai arrêté le niveau depuis 3 ans. Donc forcément, je suis moins...
Mais moi, contrairement à vous, je ne connais pas le sport de haut niveau de près. Et je me suis longtemps posé cette question, en fait. Pourquoi il y a cette hype autour des Jeux Olympiques? Pourquoi c'est si singulier, extraordinaire par rapport à des mondiaux, par exemple, dont on se dit que le niveau est sans doute assez proche? D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Est-ce que le niveau au jeu, par exemple en athlétisme, il est plus relevé qu'aux mondiaux? Est-ce que les gens... ou pas?
Par exemple, Usain Bolt, il a battu le record du monde en 2009 à Berlin.
Ouais.
On l'a découvert en 2008 à Pékin et en 2009, sur cette piste magique au championnat du monde, il bat le record du monde du 100 mètres, 9,58, je crois, si je ne me trompe pas trop. Ça dépend en fait le niveau, quand même, en tout cas pour nous en athlétisme. Il est relativement le même souvent. Alors des fois, il y a une descente après les Jeux Olympiques. Quand on est champion olympique, une année après les Jeux Olympiques, il y en a qui vont redescendre un peu. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas forcément réussi aux Jeux Olympiques, qui vont aller essayer de rechercher quelque chose. Comme moi, après 2016, après les Jeux Olympiques de Rio, je passe pas à côté, je fais 8e.
Parce que toi, Johan, ta carrière exceptionnelle, et tous les titres, il n'y a pas de médaille olympique.
Non, jamais.
Il n'y a pas de médaille olympique.
Mais ça fait partie de ma
carrière.
Alors
que tu as participé à combien d'Olympiades ?
4 Jeux Olympiques.
4 Olympiades, il n'y a pas eu de médaille. Est-ce que c'est...
Comme Stéphane Diagana, comme Eunice Barber, on a eu un peu le fait...
Et ça, tu te dis aussi que tu as été dans ta discipline un des meilleurs, un des plus grands, et la médaille olympique, le podium olympique t'a échappé, et tu te l'expliques, ça ?
Ben, franchement, en 2008, oui, parce que j'étais... spectateur et pas du tout acteur. Comme une dizaine maintenant, j'arrivais dans quelque chose qui était...
nouveau, quoi. Tu étais déjà champion d'Europe quand t'arrives en 2008.
Était énorme. Il y avait une pression, en plus, qui était assez forte. Et puis, en plus, on s'était aussi positionné sur le fait d'aller en Chine, sur les Jeux Olympiques, etc. Donc, géopolitiquement, on s'était aussi un peu positionné par rapport à ça. Et ça nous était un peu retombé un peu dessus également. Et puis, oui, j'étais plutôt... vraiment spectateur de ça, quoi, et pas du tout acteur. Il faut être acteur de sa course et des Jeux Olympiques. Il faut pas subir tout ce qu'il y a autour, en fait, parce que les accréditations, tu vas regarder qui c'est, tu vas regarder la personne qui a une médaille ou qui a pas de médaille, tu vas voir tous les résultats qui y a à côté. Puis en plus, le fait d'être sur une épreuve longue, le 50 km, on arrive souvent en deuxième semaine et en fin de deuxième semaine. Donc il y a une effervescence dans le village, il y a une vie dans le village où il faut réussir en fait à se créer un moule et une cloison pour pas se faire prendre par plein d'émotions, plein de choses, et c'est assez compliqué en fait sur une discipline longue. Enfin, moi, j'y suis pas arrivé. En tout cas, j'ai pas réussi à être à la hauteur.
Dans le chat, j'ai Harry Cover, puisque ici on aime les pseudos, qui dit il y a toujours eu de la malchance sur les jeux. Et j'ai aussi Camélon Cito qui dit c'est juste au-dessus. Nyx qui dit champion olympique dans nos cœurs, Yoann.
Oh, mais tu as aussi un truc aussi avec les jeux en tant que spectateur.
Justement, j'avais demandé aux deux spectateurs, aux deux commentateurs, quoi la spécificité des jeux
Peut-être pas pour rester sur les performances et la hype qu'il y a autour, c'est que les jeux aussi, il y a cette particularité-là, c'est que tous les 4 ans. Les championnats du monde, t'as ça tous les ans, des Europes, t'as ça tous les ans. Et quand tu bats un record olympique ou paralympique, tu ne le bats qu'au jeu. Ça veut dire que si tu as le record olympique ou paralympique, tu le gardes pendant 4 ans. Ouais. Alors qu'un record du monde, tu peux le battre peut-être ailleurs, à d'autres moments.
Ah oui, oui.
Donc je pense qu'il y a aussi ce côté un peu...
C'est plus rare, c'est un événement plus rare.
C'est ça.
Bien sûr.
C'est ça.
Et puis où il y a une diversité telle, plus qu'il y a tous les sports réunis, tous les sports confondus, et on est tous ensemble, quoi.
Rive, qui est sportif, mais qui n'est pas sportif de haut niveau.
Non, qui n'est pas assez loin.
Pas du tout. Les croisés.
Ah non, je n'ai jamais été à un moment donné dans ma carrière de sportif en passe de devenir sportif de haut niveau.
Bon, il est super sportif. Mais toi, t'es un amoureux du sport.
Moi, mon premier grand souvenir des JO, c'est Pékin 2008, la cérémonie d'ouverture. Et c'est incroyable, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'étais encore jeune pour me poser encore toutes les questions, tu vois, liées à la géopolitique. Donc, du coup, tu prends juste ça en pleine face. Et moi, les Jeux, c'est ma compétition de sport préférée.
Ouais.
Parce qu'en fait, t'as tous ces sports qui sont réunis au même endroit. Et je pense qu'aussi, quand tu deviens champion olympique, tu rentres dans une famille qui n'est pas juste liée à ton sport. C'est-à-dire que tu deviens un Olympien avec... t'es avec Michael Phelps, t'es avec Carl Lewis, t'es avec tous les grands sportifs, tu vois, avec David Douillet, t'es avec Teddy Riner. Et en fait, tu rentres dans un truc plus grand que toi, tu vois. Et je pense qu'il y a ça aussi. Et puis, les Jeux Olympiques, c'est des moments d'histoire de fou. T'as les JO de 36 à Berlin, t'as les Jeux à Mexico aussi qui marquent l'histoire. T'as les boycotts successifs, quand ça se passe à Moscou, quand ça se passe aux États-Unis, pendant la guerre froide. Donc, en fait, il y a une sorte aussi d'aura dans les Jeux qui fait que, en fait, quand tu es athlète et que tu arrives là, en 2024, tu portes un peu tout ça sur tes épaules aussi. Et donc, quand tu deviens champion olympique ou médaille olympique, tu as tout cet héritage-là aussi qui fait que ça dépasse pour moi le cadre du champion du championnat du monde, champion d'Europe, évidemment.
Et souvent des réformes aussi autour du sport, mmh. des nouvelles épreuves, ouais. Des nouveaux matériaux. Par exemple, tu parlais de 68 Mexico, la cendrée, le tartan qui arrive en 68 ouais, à ça. Mexico. Plein de nouvelles choses, en fait.
Là, Donald Breck cette année qui va arriver. Le surf qui est arrivé à Tokyo aussi. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir pour le coup en Polynésie parce qu'à Tokyo, c'était vraiment pas terrible. Mais là,
bah là la vague est mythique. Oui, c'est une vague mythique.
Clairement.
Anna, ton rapport au sport, parce que là, tu as réalisé un documentaire. Point d'exclamation docu. Bim, vous avez le lien. Et vous pouvez voir l'excellent documentaire d'Anna. On regardera un autre extrait tout à l'heure en fin de stream. Le sport, c'est quelque chose d'important pour toi ou pas?
Je pratique un peu de sport. Après, je pense que pour être tout à fait... Franchement, je fais des pompes et des squats. Quoi. On va dire les choses. Voilà. J'ai fait de la motocross, mais je ne sais même pas si ça rentre là-dedans. Ouais,
si,
non, c'est vraiment...
si, c'est du sport. Ouais. Si.
J'ai eu un gros accident, donc j'ai arrêté.
Okay.
Non, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant dans ma manière d'aborder ce documentaire, et c'est ce qui nous a plu en tout cas avec les équipes, c'est justement que je n'avais pas de rapport avec le sport. Mmh. Et que c'est comme ça, en fait, que j'ai écrit ce documentaire, c'est-à-dire loin de la performance et vraiment près de ce que je connaissais, c'est-à-dire les humains, les émotions et voilà. Et je pense que même pendant le tournage, on se disait, que ce soit avec Johan ou avec mon équipe de tournage, ma productrice, faudrait peut-être filmer un peu plus de sport là. Mais vraiment, et en fait, bon, après on avait imaginé le film avec des archives quand même parce qu'on voulait... faire des sortes de flashbacks un peu quand les athlètes se racontent, mais du coup, enfin voilà, je pense que pour résumer, c'est justement parce que j'ai pas un grand rapport au sport que le documentaire est ce qu'il a aujourd'hui, quoi.
Mais en tout cas, vous le verrez quand vous verrez le doc après le stream, parce que vous l'avez en disponible sur France Télévisions, sur France.tv, cette attention à l'humain, cette proximité avec les personnes et aux interactions entre les différents sportifs, les athlètes qu'on a dans le doc, c'est ce que moi j'ai apprécié. Rick, tu l'as vu d'ailleurs le doc?
Je l'ai regardé. Alors, effectivement, j'ai regardé.
Quoi?
Et non, moi j'ai beaucoup aimé. Moi je suis très fan de documentaires sportifs. Moi j'avoue, j'en ai regardé beaucoup, des intérieurs sport, des choses. Moi j'avoue, je suis très friand de ça. Et effectivement, il y avait ce côté intime qui était vraiment chouette et le côté aussi groupe, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois des Romain Cannon qui discutent, qui échangent avec des Antoine Brizard, quand tu vois des Audrey Tchumeo qui rentrent dans le collectif, qui rencontrent Antonin, enfin, c'était vraiment... moi, j'ai adoré cette ambiance-là, très intimiste. Et aussi, cet objectif que vous avez tous, que sont les Jeux, quoi, tu vois. Et une sorte de détente apparente, mais quand même, il y a une performance à aller chercher. Et puis, en fait, ces échanges-là, parce que... notamment quand t'es athlète ou quand tu t'entraînes parfois t'es très seul, en fait. Des fois quand t'es athlète t'es tout seul à aller t'entraîner, tu te lèves tôt tout seul, parfois ton entourage y comprend pas, et je pense que de se retrouver des fois entre athlètes, je pense que ça permet un peu d'échanger, il y a un vocabulaire qui est propre aux athlètes, une manière de s'exprimer,
un ressenti,
peut-être
aussi,
un ressenti que je pense les gens parfois même de vos entourages comprennent pas spécialement, parce que c'est tellement de sacrifices pour la performance que c'est des fois difficilement concevable pour les gens lambda, je pense.
On s'arrête sur ce mot de sacrifice, c'est le bon mot. Théo utilise ce mot de sacrifice, c'est-à-dire que l'entraînement pour des Jeux, il est comment? Est-ce qu'il demande effectivement un entraînement, une mobilisation sur l'aspect physique, psychologique, nutritionnel,
familial aussi,
gigantesque? Comment ça se passe?
Vas-y Nanto, je te laisse parler, répondre.
Moi je dirais que, après ça c'est ma définition, hein.
Bien sûr.
Je trouve que quand on parle de sacrifice, c'est peut-être un peu fort, parce que pour moi un sacrifice c'est quelque chose que tu donnes et tu n'as rien en retour.
Oui.
Alors que quand on pratique une activité à haut niveau comme ça, ok, il y a des contraintes, mais ce qu'on a en retour, moi, ce que le sport m'a apporté en retour, pour moi, ce n'est pas du sacrifice, parce qu'il m'a rendu quelque chose. Donc c'est peut-être là où moi je fais une petite nuance dans le mot sacrifice. C'est du respect du donnant-donnant, finalement. Donc oui, je ne mange pas des haribots tous les jours, mais à côté de ça, je vis une aventure humaine qui est quand même assez dingue. Je ne vois pas ma famille souvent. Enfin, tout ça, c'est vrai, il y a des contraintes. Mais je ne parlerai pas de sacrifice.
Comment à l'instant, tu viens de dire, tu l'as dit aussi tout à l'heure, que le sport de haut niveau était rentré un peu par accident dans ta vie.
Ouais.
Tu peux nous dire comment ça se passe? Il y a une rencontre quoi, avec l'athlétisme, corrige-moi, mais à l'école, je crois.
Oui, en fait, moi, j'étais dans un collège qui était spécialisé pour déficients visuels. Et en fait, ma prof de PS a inscrit toute ma classe à participer à une compétition d'athlétisme.
Elle vous a pas demandé votre avis, quoi. Hop, inscription.
Tout le monde.
Ouais.
Athlétisme et natation. Mon natation, ils m'ont dit de sortir de l'eau.
madame, vous êtes en train de vous noyer. Hein.
Voilà, c'était réglé. Et athlétisme, du coup, moi, j'ai participé 2 ans à cette compétition. Ouais. Et bah, j'ai rencontré la Fédération française handisport, ouais, qui régit un petit peu pas mal de sports paralympiques, m'a repéré et m'a proposé de faire des stages avec l'équipe de France de para-athlètes de l'époque.
C'est qui cette personne qui va plus vite que tout le monde, là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous présenter?
C'était assez cool. Et moi, quand je suis arrivée dans ce monde-là, j'ai pas tout de suite compris, hein, parce qu'il fallait s'entraîner 2 fois par jour pendant une semaine, et moi je m'entraînais pas du tout. J'ai tenu 3 jours.
Ah oui, au début t'étais un peu en mode cool,
ah non,
comme ça.
Ah non, c'est mon corps qui était en mode je comprends pas ce qui se passe. Mais ouais, c'était vraiment par hasard. Et moi, je me suis dit que je voulais être sportive de haut niveau et prendre en tout cas les caractéristiques, que ce soit physique et mentale, du sportif de haut niveau. À partir du moment où je fais mes premiers championnats du monde en 2002 à Lille, et je perds. En fait, je finis cinquième.
Okay.
Je finis cinquième du 100 mètres au championnat du monde. Mais par contre, je fais une médaille d'argent sur le 400. Mais pour moi, je voulais pas être coureuse de 400. Moi, je voulais être la reine du 100 mètres. Donc, le fait d'avoir perdu sur ces championnats du monde là, je me suis dit non. En fait, je comprends maintenant pourquoi il faut s'entraîner. Et pas juste 15 jours, en fait.
Mais en fait, tu arrives à très haut niveau très tôt, parce que tu dis, je prends conscience de l'envie d'être une athlète de haut niveau au championnat du monde. Tu es déjà au championnat du monde. Donc, en fait, tu as des prédispositions athlétiques assez incroyables, quand même.
Je pense qu'ils ont cru en moi.
Ouais.
Et puis, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles aussi. Mmh. On était quand même jeunes. Moi, j'avais 17 ans quand j'ai fait mes premiers championnats du monde. Et donc, ils ont cru en moi. Ils se sont dit, bon, bah, pourquoi pas, quoi. On va essayer.
Je pense qu'il n'y a pas que ça. Parce que moi, même si on croit en moi, si tu veux, je vais rien faire sur une piste d'athlète. Ok, mais c'est hyper intéressant.
Mais du coup, c'est par la défaite que tu dis que t'as appris sur toi, etc. Et Johan, t'avais dit ça aussi, que toi, c'est assez étonnant, t'apprenais plus des défaites, enfin, tu rebondissais mieux après les défaites qu'après les victoires.
Ouais, pour moi, mais je sais pas si toi c'est pareil, Nanto, à la fin de ton objectif, quand tu t'es mis un objectif dans l'année, et en fait, ben, nous, tu vois, des 50 km, t'en fais un ou deux dans une saison. Et à la limite, pour moi, c'était très bien. Et ben, en fait, dès que tu as franchi la ligne d'arrivée, tu penses tout de suite à l'après. Déjà, tu te remets tout de suite l'objectif, mais en fait, tu as franchi la ligne et tu es déjà, ben là, je sais pas, tu as franchi la ligne en 2012, ben, tu penses tout de suite à 2013, à ton objectif de 2013, et tu as déjà analysé un peu tout ce qu'il faut remettre en place, etc. Et c'est vrai que dans les victoires, il faut prendre, bien sûr, le positif de la victoire, mais dans la défaite, c'est vrai qu'on arrive aussi à tirer souvent des enseignements qui vont me permettre après d'aller chercher d'autres assets, d'autres compétences qui te permettront de rebondir et d'essayer de renouer avec le succès. Mais le succès, c'est même pas la victoire, mais c'est pas la victoire avec la médaille ou être premier, c'est déjà la victoire
intérieure.
Avec soi, la victoire intérieure et la victoire avec les personnes qui t'accompagnent et qui t'entourent. Parce que tout à l'heure, tu parlais des sacrifices, mais en fait, c'est toute une équipe en fait, que tu embarques avec toi. Il n'y a pas que toi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être, quand tu fais du très haut niveau ou du haut niveau, tu embarques tout le monde avec toi. Donc, en fait, il faut pouvoir partager aussi. Ça, pour moi, cette notion de partage, elle a tout le temps été très importante, que ce soit avec mes enfants, avec mes amis, mes entraîneurs, etc. C'était super important de pouvoir les embarquer dans un projet, en fait, tous ensemble. Et donc, cette notion de partage aussi, pour moi, elle était hyper importante dans le sport de haut niveau.
Johan disait que dès la fin d'une course, le regard est déjà tourné vers, la suivante. Au quotidien, Nantonin disait qu'elle n'aimait pas trop le mot sacrifice, parce qu'un sacrifice, c'est qu'il n'y a pas de récompense derrière, et le sport a beaucoup donné. Mais au quotidien, en termes de... Bon, là, il y a des fruits sur cette table qui n'arrivent jamais, donc on voit bien que c'est un peu exceptionnel. En termes d'hygiène de vie, ça implique la nourriture, le sommeil, les relations sociales. Est-ce que c'est quand même un cadre extrêmement strict, notamment quand, juste après une compétition, on pense déjà... à la suivante, est-ce que c'est quelque chose de très présent? Dans le documentaire d'Anna, par exemple, à un moment, ça parle un peu de la bouffe. en mode ouais. Bon, bon, on peut pas faire des folies, quoi. Ouais. C'est très présent ce cadre un peu strict.
Forcément, parce que on met tout en place pour être le plus performant le jour J.
Ouais.
Donc ça passe effectivement par une hygiène de vie qui est strict, oui et non, parce qu'il y a forcément...
Non, mais... Non, en fait, moi, non. Hein.
Non, mais moi, je suis vraiment pas la mieux calée, en plus, là-dessus, honnêtement, côté nourriture. Mais c'est vrai que, forcément, il y a des moments où on fait plus attention. Moi, c'est sûr qu'après une victoire ou une défaite, je calme un peu d'abord. On va bien manger, on va bien récupérer, on va bien se faire plaisir. Et puis après, effectivement, il faut repartir. Mais c'est pas... En tout cas, dans mon cas, c'est pas toute l'année hyper strict. Il y a des moments où on va énormément travailler le foncier, où là je sais que je vais me faire plaisir parce que on est en hiver, on fait beaucoup d'entraînement dur, et c'est vrai que plus on va approcher la compète, plus, mais c'est même inconscient en fait, plus je vais plus avoir envie de manger de bonbons, je vais plus avoir envie de manger de gâteaux, je vais plus avoir envie de manger des cochonneries, mais c'est vraiment inconscient. C'est mon corps et ma tête se disent voilà, maintenant t'es dans ton objectif. Et j'en ai plus envie.
Le sommeil, c'est important ou pas?
C'est important. Mais en fait, tout ça, c'est faut pas s'imposer en fait une charge mentale, quoi. En fait, c'est important de. Tu vas préparer un objectif pendant 10 mois, et en fait, 10 mois, 11 mois, et en fait, je pense qu'après, ce qui est vraiment super important, c'est de pouvoir se reconnecter, comme tu parlais, à une vie sociale. C'est important d'aller voir des concerts, c'est important d'aller au cinéma, c'est important d'aller avec ses potes au resto, aller s'amuser. C'est important de voir aussi la vie à côté, en fait. Et c'est ce qui te fait, après, justement, tu reprends quelques kilos, t'es content, t'as bu un bon canon, t'as mangé un bon morceau.
Alors, on a le droit de temps en temps.
T'as vu un sport de haut niveau qu'on aime, bien sûr.
Et puis après, tu repars gonflé à bloc, et puis tu repars sur ta préparation. Et si t'as pas ça dans la saison,
c'est dur.
C'est dur de réenchaîner chaque année.
Et puis
comme
finalement,
ça, comme ça, comme
le
ça,
fait
quoi.
De faire ça, je trouve que ça prouve qu'on est humain.
Bien sûr.
On n'est pas des super héros. On n'est pas, voilà, on est humain. Et quand t'es humain, t'as des envies, t'as des moments où tu craques, il y a des moments où t'es un peu plus solide. Et oui, ça fait partie de l'athlète de haut niveau.
Vous avez dit déjà que même dans les sports les plus individuels, y compris dans l'athlétisme, le collectif était important. Et c'est ce qui ressort dans le documentaire d'Anna. Ce qui nous permet de parler de la team Décathlon, dont Johan est le... Tu vas me dire quel titre est le meilleur, le manager, le directeur. Antonin, tu es une des athlètes, 33 athlètes, je crois. Hein. Dans le documentaire, on en voit quoi, 11, je ne sais plus.
Oui, c'est ça,
11. Qui ont été choisis sur des critères...
Moi, si j'avais pu, je les aurais tous mis, mais peut-être en fait, il y avait une réalité...
C'était les plus beaux, peut-être.
C'était les plus stylés, en fait. Voilà, c'est ça, on va se dire.
C'est ça, ouais.
Non, c'était... En fait,
autres,
c'était
hein, les 22.
Non, mais en plus, ça a été vraiment long, en fait, ce choix.
Oui.
Parce que... il y avait une réalité en fait de récit, c'est-à-dire que on peut pas présenter 33 personnes sur 52 minutes, ou alors on rentre pas dans les histoires personnelles des uns et des autres. Là en fait, en faisant le calcul sur 11 athlètes, ma monteuse elle m'a regardée en me disant, en fait, on va passer 5 minutes par athlète, est-ce que tu en as conscience, quoi. Donc déjà même ça, c'était très stressant pour moi, et je trouve que ça va, on apprend quand même à les connaître quand on regarde le film, quoi. On se dit pas qu'on survole certains sujets. Et du coup, c'est vrai qu'on a construit un peu le film avec le co-auteur, en se disant on va construire cette narration en fait comme une tresse, en fait. C'est-à-dire que chaque sujet va rebondir sur un autre sujet. C'est-à-dire que plutôt que de leur faire répéter en fait tout le temps les mêmes choses, je viens de là, j'ai fait ci, enfin mon parcours c'est ça. C'est à chaque fois lever une thématique. Mais le choix d'athlète a été très compliqué, et heureusement que Johan était là, quoi. Parce que...
Mais il y en a eu 11, et là il y en a 11, mais il y en a 33
mais,
de fois
oui,
le
mais
choix
je me souviens, ouais, je ouais. me souviens que un des premiers appels que j'ai fait avec Johan, j'avais regardé en fait la liste des 33 athlètes, et en fait on était d'accord sur tous.
Oui.
Enfin vraiment, il m'avait dit, peut-être un ou deux. Oui,
mais là, par exemple, on voit les 11 et on s'attache aux 11. On a envie d'en savoir plus sur 11, sur Canon l'escrimeur, sur le surfeur, sur... Il y a un joueur de volet, je crois, aussi.
Sûr, en Antoine Bézard. Ouais.
Voilà, ouais. C'est exactement. Et en fait, je pense qu'il y en aurait 33, on s'attacherait aux 33.
Oui, oui. Mais c'est dur de faire une fresque de plusieurs... Enfin, tu vois, parce que c'est des sports différents. Mais c'était chouette de montrer le côté collectif que vous avez dans la team, dans le team Décathlon, quoi.
C'était créer une alchimie, en fait, moi, quand j'ai été recruté par Décathlon. Parce que quand j'étais athlète de haut niveau, J'étais déjà au sein de la famille Decathlon. Hein. J'étais en partenariat avec une marque qui s'appelait Newfeel à l'époque, qui était vraiment pour les chaussures de marche athlétique. On créait des chaussures de marche athlétique. Et après, bah, une fois, il y a là, tout le temps cette fameuse reconversion des athlètes. Et là, ils m'ont ouvert également les portes pour bah, continuer à travailler bah, sur la reconversion. Et puis, bah, ils m'ont demandé, en fait, c'était bah, Xavier Rivoire, l'ancien journaliste que tu as dû connaître, qui m'a dit, écoute, Johan, t'incarnes tellement nos valeurs chez Decathlon, etc., que j'aimerais, en fait, que tu puisses après pouvoir raconter, pouvoir faire ce que tu viens de vivre avec nous et de pouvoir aussi le faire avec d'autres. Et le partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça va nous permettre également de montrer ce qu'est Decathlon en fait en termes de d'accompagnement sur les produits, mais également sur les projets sociétaux, comment on veut placer le sport dans le quotidien de chacun et chacune. Tout ça, c'était hyper
et
important.
Et comment se prend cette aventure de la team?
Elle commence en 2021 en fait. La première personne que j'ai rencontrée, ça a été Romain Cannon, à son retour des Jeux Olympiques de Tokyo.
Grand escrimeur. J'ai oublié l'arme.
Ensuite, j'ai rencontré Marie en même temps, le même jour, et j'ai appelé Nanto, mais je voulais déjà appeler Nanto.
C'est toi qui constitue la team, c'est
bien sûr. Team et c'est moi qui appelle les athlètes et qui me dis, mais enfin, j'ai vraiment envie de créer quelque chose de fort avec des athlètes qui ont une forte personnalité, mais qui ont aussi pas que le sport, quoi, qui ont des valeurs qui sont très très importantes à leurs yeux, qui défendent des causes, etc. Et c'était vraiment important de pouvoir regrouper toutes ces individualités qui créent une très belle fondation et après qui créent un très beau collectif, parce que tout le monde avait envie de partager, avait envie de connaître, était curieux de savoir ce que faisait chacun, pouvait apporter aussi son expérience aux plus jeunes. Là, je pense, on va pas spoiler ton émission, Samuel, mais là, à 18h46, il y a Marie-Ambre Molu qui est en finale du 100 mètres.
Ok, tout le monde est parti.
Du 100 mètres tu vois, du 100 mètres nage libre, qui est notre petite, Benjamin du team, tu vois, quand elle voit Nantemain, qui peut lui apporter plein de choses, plein de vécu. En fait, ça a vraiment été du partage entre tout le monde, entre tous les athlètes, et chaque athlète avait vraiment envie de découvrir ce que faisait l'autre. L'année dernière, Romain avait une vraie phase de doute et on a pris le train avec un athlète qui est Dimitri Jozviki, qui vient de faire moins de 11 secondes au 100 mètres au meeting de Charletti la semaine dernière, paralympique. Et on a pris le train et on est parti le voir à Milan, au championnat du monde d'escrime. Et Romain nous voit en 8e, en quart de finale, mais... Et il était très touché. Et puis derrière, il va chercher cette médaille de bronze. Donc, tu vois, c'est...
Romain,
c'est...
si je dis pas de bêtises, pour ceux qui Romain Cannon, n'ont pas, c'est un escrimeur qui explose au jeu. C'est en fait par rapport à ça.
C'est ça.
Il arrive au jeu.
En plus.
Mais c'est lui qui ne devait pas aller au jeu.
Il ne devait pas aller au jeu. Il est 47e mondial. Là, il est champion olympique.
Il est 47e mondial. Donc, sur le papier, il est pas, il postule pas un podium. Mais il fait des jeux extraordinaires.
La magie des jeux.
Et la magie des jeux. Il devient champion olympique.
Et c'est le premier médaillé de 2021 en plus. Donc, en fait, il lance la moisson française.
Et après, ce qui est incroyable, c'est que dans les mois qui suivent, il confirme.
C'est ça, il est champion du monde.
Au mondiaux. Et là, il est de nouveau très attendu au jeu, bien sûr.
Et donc, moi, si tu veux, je pense que aussi, mon rôle d'ancien athlète de haut niveau également, ça a été que de savoir en fait comment vit un athlète, de ce qu'a besoin un athlète, et de pouvoir peut-être plus rentrer dans l'intimité, peut-être de l'entraînement, mais quand ça va bien, mais quand ça va pas bien non plus, apporter peut-être des mots justes.
Mais ça, on va en parler justement à quoi sert la team.
C'est ce qui faisait cette force, en tout cas ma force.
Je réponds juste à Love Draft dans le chat qui m'a envoyé un message il y a un moment déjà, mais que j'ai mis de côté. Parce que Twitch, l'intérêt, c'est aussi d'échanger avec vous qui nous regardez. Et Love Draft qui disait, tu liras sûrement pas mon message. Je l'ai lu, et avec intérêt, parce que Love Draft nous parlait justement des débats, des polémiques qui avaient émaillé la préparation des Jeux sur, vous savez, les étudiants qui ont été, certains invités forcés à quitter leur logement, les conditions de travail sur les chantiers. Sache, Love Draft, qu'en fait, ces sujets, on les a abordés sur cette chaîne, beaucoup, j'en ai beaucoup parlé, parce que je pense que ce sont des sujets importants. Et donc, sauf que l'objet de ce stream ce soir, c'est autre chose, mais sache que ces sujets, je les trouve comme toi importants, et on les a abordés. Et les conditions dans lesquelles sont préparés ces jeux et vont se dérouler ces jeux, on va bien sûr continuer à les regarder sur cette chaîne. C'est aussi notre travail de journaliste.
Vous avez posé la question à Tony Estanguet qui était venu. Donc,
oui, Tony Estanguet est venu à cette même table il y a quelques mois. Rift était là. Mm-hmm, effectivement, on lui avait posé cette question notamment sur le logement étudiant, sur les conditions
de travail, les chantiers, etc. Voilà, tout à fait.
Sur l'aspect écologique aussi de ces jeux. Et ça, on va pas arrêter ce travail d'ailleurs, parce que pendant tous les jeux, on va aussi voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Et puis, il y a des choses à dire sur l'organisation. Bien sûr, on se posera des questions. Je reviens au fonctionnement de la team, la Décathlon. Nantonin, du coup, la team, elle t'apporte quoi? Est-ce que c'est essentiellement sur le plan psychologique, soutien, affectif, échange d'expérience? Est-ce que vous parlez souvent? Est-ce que vous vous retrouvez? Comment ça se passe?
Bah, on se retrouve parce qu'il y en a quand même certains qui sont... sur mon lieu d'entraînement, moi je m'entraîne à l'INSEP et il y en a pas mal qui s'entraînent, enfin quelques-uns pardon, qui s'entraînent à l'INSEP donc que je croise. Moi ce que m'apporte la team c'est, j'ai envie de dire qu'on parle le même langage. On est embarqués tous dans la même aventure, on sait ce qu'il faut faire pour atteindre le résultat qu'on souhaite et ouais, on se soutient les uns les autres, on se comprend et ça c'est hyper important en fait parce que plus les jeux vont approcher, plus le stress, la pression va monter et le fait de pouvoir discuter avec des personnes qui sont finalement dans le même bateau que nous, bah, c'est quand même rassurant. Et puis il y a ce côté aussi, on se sent proche, même si on se voit pas forcément trop souvent, mais on se sent proche et il y a ce côté, je peux me confier à lui, je sais que je vais pas être jugée. Et ça c'est quand même assez chouette quoi.
Et puis t'as aussi tout le soutien des collaborateurs en fait aussi, mais ça c'est vrai, on a fait des D4 Days, des D4 Games où on est allés tous ensemble, les athlètes étaient avec nos collaborateurs, donc les salariés des Décathlon, et c'est aussi une vraie alchimie, une vraie complicité qui se crée, et chez nous en fait on est une boîte de sportifs, donc c'est que des sportifs pratiquement, et quand ils se retrouvent avec des sportifs de haut niveau à partager un moment avec eux, ça crée aussi une belle hégémonie en fait, et il y a un réel soutien de tout le monde, et moi je suis un peu, on m'a mis un peu l'amiral de ce vaisseau et j'en suis fier et après je suis surtout vraiment fier de voir comment on vit ensemble depuis ces 3 années quoi.
Et ton rôle, il y a notamment été dans la composition de l'équipe et du coup au quotidien est-ce que c'est d'organiser des moments, des échanges?
J'essaye d'organiser des moments, j'essaye de répondre à leurs attentes quand ils ont des attentes, de leur donner des produits quand ils en ont besoin, de leur apporter aussi mon soutien, mais c'est-à-dire aussi des fois être dans de la discussion, être dans du conseil, des fois aller rassurer. Apporter tout le recul que maintenant j'ai, le recul que j'avais peut-être pas quand moi j'étais athlète de haut niveau, que je prenais pas assez. Maintenant que j'ai pris un pas de côté, j'ai même mis 2 pas de côté, ben tu as ce recul en fait qui te permet peut-être d'employer encore plus des mots justes que toi tu n'étais pas capable de mettre avant, mais que maintenant tu peux mettre puisque tu n'es plus du tout athlète.
Théo, tu penses que dans le sport de haut niveau, il y a parfois de la solitude, de l'isolement des athlètes, et que ce genre d'initiatives peuvent...
Je pense que ça va même plus loin. Je pense que des fois, il y a presque de l'abandon. Certains athlètes, on a vu des athlètes lancer des cagnottes en ligne, tu sais, parce que les fédés ne les suivaient pas assez pour pouvoir justement aller se déplacer, parce que on a vu des bourses. Je pense que les gens dans le chat en ont vu passer certaines. On dit pour la préparation des jeux, j'ai pas les moyens de me déplacer, ma fédé ne suit pas. Et donc tu te dis, donc là il y a quelqu'un qui a potentiellement une chance de médaille et qui doit qui se débrouille quoi. Et du coup quand tu as Team Décathlon, je sais pas si vous faites ça, mais tu vois, accompagner sur les déplacements s'il y a besoin, encadrer et tout. C'est sûr que c'est super important parce que c'est les JO c'est un super coup de projecteur, mais c'est une fois tous les 4 ans et le reste du temps des fois c'est un peu la débrouille quoi.
J'ai vu dans l'actualité récente qu'au niveau de la Fédération d'escrime en ce moment il y avait des tensions entre
les athlètes avec les championnats d'Europe là, avec des questions, il y a des tensions en ce moment
et l'athlète il peut se retrouver très très isolé, très seul par rapport à des structures avec des intérêts qui sont pas forcément les mêmes. C'est là où on a besoin d'être peut-être soutenu et accompagné quoi.
Oui, après, même quand, des fois, quand il y a une année qui se passe moins bien que l'autre et qu'on sent, alors peut-être, c'est peut-être pas fondé, hein, mais qu'on a l'impression que le fait qu'on perfe moins, les gens s'intéressent moins à nous, que nos fédés s'intéressent moins à nous, que nos partenaires même s'intéressent moins à nous, on peut effectivement se trouver isolé et dire, on va dire les mots, hein, même être en dépression parce que on se sent plus compris, en fait. Mmh. Et c'est vrai que si on a... des partenaires, des teams avec lesquels on a noué des vraies relations humaines. Moi, en fait, pour tout vous dire, quand Johan m'a appelé, j'avais déjà été contactée par une autre marque pour signer avec eux.
Ouais.
Et en fait, ce qui m'a fait choisir Decathlon, c'est justement parce que Johan avait pris le temps de m'appeler, ce qui l'intéressait, c'était pas que Nantenin Keita l'athlète, mais Nantenin Keita la femme dans sa globalité, et le fait qu'il y ait une team qui soit constituée d'athlètes venant d'horizons différents. Et je me disais, on va pouvoir construire et écrire une histoire humaine ensemble. Et ça aide d'autant plus quand on est dans des moments un peu down, quoi.
Je voulais le passer un peu plus tard, mais je pense que c'est le moment de passer cet extrait documentaire parce que ça, c'est totalement en écho, Nantenin, de ce que tu viens de dire. Joe, c'est le deuxième extrait qu'on s'est mis de côté. On voit Nantenin, mais on voit aussi Audrey Tchoméo, la judokate, voilà, qui crève l'écran dans le documentaire. Ouais. C'est une personnalité très très forte, ouais, très solaire, qui est très entraînante, hein, qui est incroyable. Et faut vraiment voir le doc pour comprendre de quoi je parle, mais il y a un petit extrait là, vous allez voir que Joe nous a mis de côté.
Quand il dit ce nom-là, tu sens la puissance. En tout cas, ma soeur, merci pour ton message que tu m'as envoyé là. J'étais très ému, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait plaisir. Une grande sportive et femme comme toi qui m'a encouragé avec ces sages paroles. En tout cas, sache que la guerre n'est pas finie. Et malheureusement, c'est des personnes qui doivent faire toujours plus que les autres. Problème, on va aller à la guerre jusqu'à la fin. C'est un exemple. J'ai beaucoup tiré de force ton parcours, donc merci pour ce que tu as fait. En tout cas, on est ensemble, Team Decathlon, on va tout éteindre et à la fin il n'y en sera qu'un.
Le team m'a permis aussi de découvrir des athlètes comme Audrey que j'admirais, en fait, parce que c'était une athlète juste dingue et que je sentais que sa personnalité pouvait me plaire.
Ça va pas,
c'est le plus important, d'inspirer les gens, et je pense que ça c'est plus gratifiant qu'autre chose, sûr. Que l'argent, tout ça, je pense, ouais. C'est ça le plus beau, je trouve. Mais
c'est exactement ce que tu disais, en fait. Hein, on voit les relations qui se tissent au sein de l'équipe, on sent qu'il y a du soutien. Je me trompe ou Audrey, dans ce groupe, elle joue un rôle assez... Il y a de l'énergie, il y a...
Audrey, elle déborde d'énergie.
Ouais.
Elle déborde d'énergie dans ses combats, etc. On le voit aussi. Hein, c'est quand elle rentre sur le tatami, elle met une énergie folle. Oui, Audrey apporte son énergie beaucoup.
Mais chacun, en fait,
a une énergie un peu différente.
On le voit dans le doc, il y a des personnalités plus effacées aussi.
Complètement différentes.
Mais quand on voit
j'ai l'impression que c'est une histoire aussi de personnalité. Mais moi, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on m'a contacté pour faire ce film, au début, on m'a dit, on va faire un film sur la team des quatre. C'est un grand collectif, c'est comme une famille. Et je me suis dit, imagine, ils sont pas du tout proches. Non, mais vraiment, c'est tout. Pour être tout à fait honnête, ça peut être un discours un peu corpo. Donc, dire, faut vraiment montrer ça pour la marque. Et en fait, c'est vrai que Johan, toi, t'as réussi quand même à créer cette cohésion de groupe. Et en choisissant, en fait... tous ces athlètes, c'était aussi des personnalités. Plus que des grands athlètes, c'était des personnalités qui pouvaient matcher ensemble. Et c'est pour ça que ça fonctionne, en fait.
Bien sûr.
Tu les as choisis aussi en fonction de ça, en te disant, des individualités qui, au sein d'un collectif, vont pouvoir s'apporter parce que tu les sentais...
Après, j'avais quand même des objectifs. on appelle ça en entreprise des KPI. Et donc ça, j'avais quand même des objectifs.
Objectifs à quel niveau?
Il fallait cibler les nouveaux sports quand même. Donc parler à une cible aussi, une jeunesse. Avec le skate, le breakdance, l'escalade.
Ouais. Ah oui, oui.
Qui était une discipline en plein essor.
Là, on voit
l'escalade indoor, Mika et Bassa, le surf, etc. Donc ça, il y avait quand même... Mais également aussi parler avec les sports qui... représente l'olympisme au gros sens du terme. Tu vois, l'aviron avec Laura Tarantola et Claire Beauvais, le para-athlétisme, le tir, le handball, le basket, le volley.
Ça donne une expertise.
Il y a 21 disciplines. Oui, la gym avec Aline, la natation. En fait, tu avais 21 disciplines différentes pour 33 athlètes. Donc ça aussi, c'est une richesse. Mais ça me vient de Gany Yalouz, qui a été DTN de l'athlète pendant longtemps, lui qui arrivait d'un sport de combat, qui arrivait de la lutte. Et en fait, quand on était avant en athlète, on se regardait tous et on n'était pas du tout un collectif. Et lui, en fait, quand il est arrivé avec son sport de combat, qui était un petit sport, la lutte, il s'est dit, en fait, il faut qu'on apprenne tous à se connaître. On a tous des différences, on a tous une discipline qui est complètement différente, mais qu'on aille un peu voir quelle est la spécificité de la discipline et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter à moi dans ma discipline.
Et ça, justement, c'est très important de créer. Est-ce que
ça,
ce souci en fait du collectif, là, est-ce que ça apporte à la performance? C'est une question qui est soulevée dans le documentaire, d'ailleurs. Est-ce que le fait de créer collectif, d'être ensemble, est-ce que ça va venir
accompagner ça?
C'est un peu ce que tu disais, finalement, sur Romain. C'est parce que tu disais quand vous êtes allé le voir,
Romain, ça,
et qu'il a eu une médaille derrière. Enfin, bien sûr. Tu vois, je sais pas.
Ça te transcende. L'année dernière, Audrey, je ne sais pas si tu te souviens, Audrey, on est au Grand Slam de Paris qu'elle remporte.
Oui.
Elle vient nous voir après son quart de finale. Après, il y a les demi et les finales beaucoup plus tard. Après son quart de finale, elle vient nous voir en tribune, en fait. On était là, nous, avec des collaborateurs et quelques athlètes. Il y avait Nanto qui était avec nous. Et elle vient nous voir complètement. Elle sort de
Nanto, t'es toujours en soutien. Des autres, toi, j'ai l'impression.
Elle sort de combat. Mais elle va tout le temps voir les...
C'est vrai qu'en
main, elle est souvent venue sur des compétitions voir les athlètes. Ouais.
Donc le soutien, elle est là, le soutien.
C'est une grande sœur, c'est la grande sœur du
team,
quand même.
C'est la doyenne.
Je ne l'ai pas fait exprès, mais nous, on est en soutien des bacheliers, parce que c'est la deuxième personne qui m'en parle. Il y a Furifil qui me dit, comment ça se fait que tu fais un live aujourd'hui, alors qu'après-demain, j'ai mon bac de sport, et vraiment, c'est et en fait, je me rends compte qu'il y a les épreuves de sport du bac qui arrivent, et peut-être que ça va vous inspirer un petit peu. Voilà, c'est drôle, je n'ai pas fait exprès.
Mais c'est bizarre, tu vois, ce truc-là de partager aussi des sports, je pense que ça peut aider dans sa propre discipline derrière.
En fait, c'est ça.
Ça me fait penser à une anecdote à Antoine Dupont, alors lui qui est numéro 9 au rugby, et qui adore regarder pendant des heures des matchs, mais d'autres postes que le sien, pour comprendre comment est-ce que, dans ce sport collectif qu'est le rugby, les différents aspects des différents postes permettent de nourrir, lui, après son rôle au cœur du jeu. Là, c'est différents sports, différentes disciplines. Oui, il y a des gestes, il y a des manières de se préparer, que toi, tu peux te dire, ah, dans mon sport, il y a un truc qui ressemble et qui peut peut-être m'aider dans la performance derrière.
Ouais, c'est un peu ce que disait Johan par rapport à Gany. C'est finalement aller voir un petit peu chez l'autre. Qu'est-ce qui fait du bien qui pourrait me servir à moi, ma performance, et moi, qu'est-ce que je fais de bien qui pourrait lui servir à sa performance, et ça, c'est pas forcément
dans la technique, tu sais, ça peut être aussi dans comment j'aborde, comment j'aborde un événement, en fait, comment j'arrive, comment je l'aborde, etc. Et c'est vraiment une vraie richesse, en fait.
Tu parlais de Dupont, donc lui a changé de discipline récemment.
Dupont qui fait du 7. Hein? Alors il a changé, il continue à faire du 15,
oui,
mais effectivement, il est passé au 7 pour faire les jeux.
Le 7, c'est le rugby à
7.
Voilà.
Et en plus de ça, il est arrivé au bon moment, puisque là, les garçons du 7 ont gagné leur première étape de tournoi mondial, et ils ont gagné le circuit mondial il y a deux semaines. Donc ce qui est assez ouf, c'est la première fois. Enfin, Antoine Dupont, c'est vraiment la gagne partout où il passe, quoi. Et donc là, il va participer au 7, et c'est trop bien parce que ça met en lumière le 7 masculin qui était un peu en retrait par rapport au 7 féminin qui, elle, avait déjà participé au jeu. Et les garçons n'étaient pas au jeu de Tokyo. Donc là, ils vont pouvoir être à Paris et potentiellement une chance de médaille.
Collectif au service de l'individu. Et là, c'est Antoine Dupont qui est un peu le plus.
Bah, clairement, qui a du coup n'a pas fait le 6 Nations avec le 15 cette année parce qu'il avait des obligations avec le 7 et qui décide de.
Elle est belle cette histoire, hein.
Et d'ailleurs, il a nourri de nouvelles qualités dans le 15 parce qu'il allait faire du 7. Il a perdu un peu de poids.
Ah ouais.
Tu sens qu'il a une plus grosse densité physique sur certains, sur le grattage, pour ceux qui s'y connaissent un peu en rugby. Donc certains disent que depuis qu'il est passé au 7, ça l'a servi pour le 15.
Le grattage, c'est le fait d'aller chercher un ballon dans le tirage.
C'est pas parce que je suis un supporter du Stade Toulousain, mais on peut quand même remercier le Stade Toulousain d'avoir mis à disposition Antoine Dupont,
d'avoir joué le jeu, parce que dans d'autres sports, pour le coup,
sur le 7, etc.
Pour le football,
on est en train de voir.
c'est Thierry Henry, c'est ça?
Ah bah, qui a dit tout le monde était prêt pour me donner des joueurs. Et en fait, ouais. En mode, maintenant que j'ai fait ma liste, il y a beaucoup moins de gens qui sont chauds de me prêter des joueurs.
En train de s'arracher les cheveux. Enfin, non, pas les cheveux du coup, parce que Thierry Henry. Mais bon, en fait, il se rend compte que oui, les clubs, notamment les grands clubs.
Je joue pas le jeu.
Et pas seulement les grands clubs internationaux, y compris les équipes de Ligue 1, sont pas très chauds pour prêter des joueurs alors que la prochaine saison se profile, quoi.
Mais après, il y a de tels enjeux, même, tu sais, des fois, là, la reprise déjà en Ligue 1, elle reprend. Enfin, les joueurs doivent déjà reprendre.
Pour moi, c'est la question de certains sports aussi au jeu. Mais ça, c'est un autre débat encore. Est-ce que le foot au jeu, c'est.
Un petit mot pour Anna, mais on en parlait tout à l'heure, mais je voulais te mettre de côté parce que je vais l'oublier. Julien, je découvre Anna, je suis allé jeter un œil à son travail. Ils vont vous être rapides. Hein. Alf War et Cicatrice. Magnifique travail, hâte de voir Alf War, du coup.
Ah, ben, c'est très gentil.
On en parlera tout à l'heure. Julien, merci de ta question parce que du coup, on parlera aussi de ça tout à l'heure. Je vous lis un petit peu dans le chat parce que je vous ai un petit peu oublié. Quand j'ai des invités, je suis très tourné vers les invités et j'oublie parfois de lire le chat. Je remercie Joe aussi qui est la réalisation. Joe, merci pour tout et notamment pour les petits plans de sport que tu nous mets là. C'est toujours un plaisir. Allez, le chat. L'influence de Dupont sur l'équipe de rugby à 7, me dit Sugar Frog, c'est fou. Antoine Dupont qui fait la une du magazine Têtu par ailleurs,
ouais, Maldonado,
vu le beau gosse, je comprends. Hein, je l'ai pas vu la une.
Ouais, si, bah, c'est Têtu, c'est un journal, tu sais, donc plutôt LGBTQI.
Tu l'as la une, Joe,
parce que. Okay, plus, et donc, c'était important tout le travail contre l'homophobie pour l'inclusion dans le rugby, qui est un sujet.
Il y a plusieurs personnes qui en parlent. Bandini,
important,
une de Têtu, interview dans Têtu, formidable.
Et donc c'est très important qu'il se positionne maintenant dans sa carrière avant les Jeux. Enfin, de toute façon,
ça je l'ai pas vu ça.
Très fort.
Ouais. Est-ce que dans les modos, si jamais vous avez la une, est-ce que vous pouvez l'envoyer en DM à Joe? On va essayer de la montrer parce que c'est toujours des très belles photos.
Dans notre team, on a également Marie Patouillet qui m'édite beaucoup aussi pour cette cause.
Qui fait du parasitisme.
Sur piste et sur route également.
Mm-hmm. Sur route aussi.
Elle a été championne du monde sur route au Canada.
D'ailleurs, on peut citer, hein, moi je les ai sous les yeux, les athlètes qu'on voit dans le documentaire, les 11 sur les 33. Donc il y a notamment une grande athlète que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Nantenin Keïta. Voilà. Vous avez Audrey Tchomeo dont on a parlé, hein, la juge de 4, voilà, qui est là, je viens de l'apprendre, n'est pas qualifiée pour les Jeux, je suis un peu triste pour elle. Romain Cannon qu'on va pouvoir voir au jeu. Voilà.
Il
fera les championnats d'Europe cette semaine à Berne.
C'est là.
En Suisse, il fait les championnats d'Europe cette semaine. Avec la nouvelle équipe reconstituée, parce que ils n'ont pas pris Alexandre Bardonnet qui constituait l'équipe. Donc là, ils partent au championnat d'Europe avec Yannick Borel et le reste de l'équipe à Berne.
Ça, c'est l'interview d'Antoine Dupont. Merci beaucoup, Joe, contre l'homophobie. Ça, c'est super. Marie Patouillet, on vient d'en parler.
Juste pour revenir sur Audrey, elle n'est pas qualifiée parce qu'au judo, les sélections, c'est une personne par nation.
C'est trop dur. En fait, le niveau du judo français, il est insane.
Voilà, il est super fort et ça a été très serré pendant très longtemps, jusqu'à la dernière minute, entre Audrey et sa concurrente. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas sélectionnée, mais du coup, ça n'enlève rien à l'athlète de dingue que c'est. Quoi.
Il y a des sports en France, les fameux sports où on est très, très fort au niveau olympique, où c'est très compliqué de.
C'est judo, elle est double médaille olympique, elle a remporté les championnats du monde.
Enfin, tu vois, il y a 3-4 KT chez les filles, on peut aller choper une médaille d'or, tu vois.
Et tu
peux doubler, et je pense que c'est tellement dense.
Ça doit être dur, non, pour une athlète de ce niveau, de voir échapper la qualification à pas grand chose.
C'est pas joué à grand chose, c'est vrai.
En plus, c'est dur le judo.
C'était deux ans de sélection difficile pour
elle. Parce que t'es mis en concurrence, t'es sur les grands slams, sur les championnats d'Europe, du monde.
Tout le temps.
Du coup, tu dois te battre en championnat du monde en sachant, et même en championnat d'Europe, en te disant là, je vais affronter mon adversaire, ma coéquipière de sélection, mais mon adversaire pour la qualif au jeu.
Tu bats même ensemble tout au long de l'année à l'INSEP, quoi, puisque t'es ensemble sur le tatami, etc.
Il y a Marie Patouillet, on en a parlé, en paracyclisme sur piste. D'ailleurs, dans le documentaire que je vous invite à regarder, !docu, !documentaire, Marie, elle a des mots justement sur. On pourra en parler d'ailleurs, maintenant, sur. Le sport, comment on dit, le sport, et notamment les discriminations aussi dont les femmes sont victimes dans le sport de haut niveau, je pense qu'il faudrait qu'on en parle. Les frères Maouet, Bassa et Michael, donc l'escalade, il y avait le suspense dans le documentaire, parce qu'il y en avait un qui était dans le doc, il y en a un qui est qualifié pour les Jeux, et l'autre qui...
Et Michael ne sera pas qualifié.
Il y a le surfeur Minimana Brice, Antoine Brizard, le champion de volley.
Tout à fait, exactement.
Nélia Barbosa, kayakiste en disport, qu'on a reçu ici. Ouais, ouais, qui était ici. Ouais.
Qui a fait vice-championne d'Europe ce week-end en Hongrie.
Elle est tellement gentille.
Elle est incroyable.
C'était une très très bonne rencontre. Franchement, on l'avait eue, ouais, c'était vraiment chouette.
Moi, j'ai eu plaisir à la retrouver dans le documentaire parce que c'est vraiment une personne extraordinaire. Elle est qualifiée pour les Jeux Paralympiques. Et Aline, moi je ne connaissais pas, on dit Aline Fries ou Fries?
Aline Fries.
Fries, jeune gymnaste.
Une gymnaste, oui.
Assez incroyable.
Qui a fait les Jeux Olympiques de Tokyo.
Ouais, qui était peut-être une des juniors de la team.
Avec Marion. Hein, avec Marion Molu. Ouais.
Et tout, c'est. Et tout... Oui, bonjour. Ah, voilà la une. Le beau gosse.
Ouais. Avec ses grosses pommettes, là.
Ouais. le beau gosse.
T'as pas envie de t'y frotter.
Ouais. Et lui, il a le nez bien droit, pas comme certains en ce moment. le pauvre. C'est la une, je sais pas, j'ai vu la une de l'équipe ce matin, avec le visage, le gros plan sur Kylian Mbappé. Et son nez explosé, eh ben elle est dure à soutenir, la une, elle est bien...
Ouais, ouais, hein, là, il a pris
cher, hein,
le petit virage, là.
D'ailleurs, on est toujours un peu sur l'actu ici. Ce matin, il y avait un gros débat de savoir s'il allait jouer le prochain match contre les Pays-Bas ou pas.
Je crois que c'est rappé.
C'est tombé.
Et par contre, il ne s'est pas opéré, hein, c'est ça ?
Non, c'est pas opéré, et du coup, sûrement un masque pour la fin de la compète, quoi.
D'accord, mais a priori, il est forfait sur les Pays-Bas.
On n'a pas de chance, hein. Franchement, que ce soit Dupont à la Coupe du Monde de rugby, qui avait un masque aussi parce qu'il s'était pété à la pommette, là, Mbappé avec le nez. Ouais. C'est quand même terrible, quoi. C'est assez terrible. Je me permets de prendre une question dans le chat.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a Ludo Impro qui demande le rapport à l'imaginaire et à la pensée positive dans la préparation mentale. Est-ce que vous l'utilisez, vous l'avez utilisé? Est-ce que ça aide beaucoup à se préparer mentalement à une échéance importante?
Moi, ça marche pas trop sur moi.
Ah ouais? Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que je vois plein de gens qui en parlent. C'est très à la mode, tu vois, la projection, etc.
Ben, en fait, la visualisation, pour moi, ne fonctionne pas.
Okay.
J'ai travaillé avec un préparateur mental pour Tokyo, sur la fin de préparation de Tokyo. Et en fait, la première chose que je lui ai dit, c'est par contre, je viens travailler avec toi, mais je veux pas que tu me parles de visualisation. Il faut que tu trouves une autre méthode pour me permettre de me sentir bien. Mais la visualisation, pour moi, c'était pas... Pour moi, c'était trop simple, en fait.
Okay.
Voilà. De me dire, imagine-toi, patati patata. Surtout sur imagine-toi des choses passées. Oui, mais le passé, c'est le passé, ça m'aide à me construire, mais je l'ai déjà fait, en fait. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'aides à refaire quelque chose ou à faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Mmh. Donc, moi, je ne suis pas très fan de la visualisation.
Après, on est plus, je pense, on est dans la perception, en fait. Dans la perception, dans le ressenti de nos sensations. Chaque jour, un souffle, une foulée, un frottement, un déséquilibre, c'est différent et ça peut t'apporter un indicateur. Le jour d'une course, en fait, je pense, enfin, moi, c'était vraiment comme ça. J'étais vraiment dans de la... Je l'avais dit un jour dans l'équipe, dans une... Ça, je ne sais pas si tu vas retrouver, mais j'avais dit, mes pieds, c'est mon cerveau. Mais en fait, dès que je venais déposer mon pied au sol et comment était mon pas... Je savais comment j'allais être dans ma marche, tu vois, si j'allais être fluide, etc., combien de temps ça allait mettre du temps à se mettre en place, etc., le frottement, il y avait plein de choses qui me servaient, donc j'étais plus, on va dire, dans l'écoute et dans le ressenti que dans la visualisation.
Après, c'est tellement personnel, ça.
Complètement.
Il y en a pour qui ça va super bien marcher, il y en a qui vont se voir gagner et qui vont gagner, il y en a qui... c'est vraiment personnel.
Moi, j'ai une petite anecdote avec Antoine de la team, du team Décathlon, parce que j'avais participé à la Zilane il y a 2 ans.
Oui.
Et moi, je sais que dans les moments de stress, j'étais absolument dramatique. Mais tu vois, genre, je choquais de fou à chaque fois.
La Zilane, c'est une compétition de 10 sports de jeux vidéo. Oui. Hein.
Exactement. Ah, okay. Et en fait, on devait apprendre plusieurs jeux.
Dizaines de jeux.
Des dizaines de jeux à apprendre en un mois et demi, à peu près. Et du coup, on discutait pas mal avec Antoine à ce moment-là. Je lui dis, est-ce que t'as pas des trucs sur, tu sais, l'ancrage, tu vois, avoir un petit geste qui te permet de te concentrer?
Tu te conseilles par les meilleurs, toi,
quand j'ai un message à Antoine. Parce qu'Antoine, en fait, Antoine Brizard, donc, qui est membre de l'équipe de France de volley, qui a gagné les JO avec l'équipe de France de volley, regarde pas mal Ponce, il regardait aussi certains de mes streams, et donc on avait discuté par message. Donc je lui avais dit, est-ce que tu as un petit conseil, un petit truc et tout? Et il m'avait donné des très bons conseils sur la respiration, sur un peu de visualisation, mais aussi des petits gestes qui peuvent t'aider à te reconcentrer dans les moments où tu es un petit peu en stress. Et dans le jeu vidéo, c'est la concentration qui compte beaucoup. Et ça m'avait beaucoup aidé, parce qu'on est allé jusqu'en quart de finale de la Zilane cette année-là. Donc franchement, c'était vraiment cool.
Je crois qu'Antoine fait du gaming aussi. C'est un gros joueur, Antoine.
On avait fait quart de finale avec Berlue et Moment. On ne reviendra pas sur le palmarès
d'une autre personne de cette table.
Oui, tu l'as fait cette année en plus.
Oui, moi je suis monté sur le podium du bas.
Donc,
j'ai médaille bronze en partant du bas. Ça veut dire que je suis pas dernier. Je suis avant-dernier. ce qui, vu mon niveau sur le jeu vidéo, est assez... Okay. Voilà. Samuel, troisième. En partant du bas. Alors, 191e sur 194. Oh, il y a Joe qui met le classement général. Oh, c'est vraiment très fort.
194.
Voilà. Tu sais les moments de stress, de panique dont tu parlais.
Je les ai sentis. Et tu fais des trucs que tu fais pas quand t'es chez toi. Ouais. Tu tentes des choses. Non, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Et du coup, c'est pour ça que j'avais envoyé un message à Antoine.
Mais c'est vrai que dans le sport, ça peut aussi arriver. Hein. Enfin, sur une finale où tu vas passer complètement à côté parce que bah, le stress te.
Ça t'est arrivé, toi?
Ouais. Ça m'est arrivé à Londres sur mon 400 mètres, où je suis arrivée en fait en ayant peu d'entraînement. Je m'étais entraînée 6 ou 7 mois avant Londres. Et avant de partir au jeu, une semaine avant, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus à marcher. Je suis en béquille. J'arrive au jeu en boitant et sur mon 400 mètres, en fait, pris par le stress, je pars à balle. Mais voilà, et pouf, j'explose. Et je finis, je crois, 4 ou 5e, mais parce qu'en fait, j'étais plus du tout lucide en fait dans mon 400, j'étais pas concentrée sur ce que j'avais appris et ce que je devais faire. Je voulais créer quelque chose de nouveau. Alors des fois ça marche, mais là en tout cas, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas mis les choses en ordre.
C'est drôle parce que quand tu as dit je ne m'étais pas beaucoup entraîné, il y a eu 6-7 mois d'entraînement, et sur le coup je me suis dit, c'est quand même une illustration du haut niveau. C'est-à-dire, considérer que 6-7 mois d'entraînement intensif, ce n'est pas beaucoup. Il y a plein de gens dans le chat qui réagissent là-dessus en disant waouh, 6-7 mois d'entraînement, ce n'est pas beaucoup. Ça montre quand même l'investissement de fou. Quoi.
Des fois, dans une saison, on est pris par une blessure, etc. Et on adapte aussi après l'entraînement et quand on va se connaître. Tu vois, moi, quand j'ai été champion du monde à Londres en 2017, je me suis cassé deux fois des côtes, une fois au mois de février et une autre fois au mois d'avril, donc vraiment la poisse. Et puis j'ai fait un autre sport, beaucoup de vélo, beaucoup de rester sur home trainer, mais à faire des séances le matin de 2-3 heures le matin, 1 heure l'après-midi, etc. Et puis une fois que j'ai remis les chaussures, j'avais pas perdu tant que ça en fait, et j'étais frais et dispo. Pour partir en fait sur la compétition, et j'ai remporté ces championnats du monde donc avec une préparation complètement différente.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux en général, on les prépare sur 3 ans quoi.
Ouais.
Donc 7 mois d'entraînement, c'est vraiment pas beaucoup.
Et là par exemple, donc les Jeux paralympiques arrivent là, et je suppose que tu te projettes déjà sur tes courses, le 400, peut-être le 100 mètres, dont on parlait. Et tu disais, moi ce que j'aime bien aussi, c'est créer des choses nouvelles. Est-ce que là tu penses déjà à ta gestion de course,
Non, pas maintenant.
C'est trop tôt.
Ouais, parce que déjà je me suis beaucoup blessée depuis 2018. Ouais. J'ai eu pas mal de galères. Donc là, je me suis re-blessée en avril.
Ok.
Et du coup, là, on part sur une grosse phase de travail. Là, j'ai eu ma sélection l'année dernière au championnat du monde, mais il y avait encore des étapes à valider. Là, j'ai validé la dernière étape. Et là, pour le moment, c'est de l'entraînement. La tactique de course va se construire petit à petit et s'affiner aussi jusque la veille de la course, parce que tu cours aussi en fonction de tes concurrentes. Donc, fonction de la série, mes entraîneurs vont me dire, là, il faut que tu fasse ça, si tu veux aussi amener tes concurrentes à la faute.
Et là, on retrouve l'importance du collectif, finalement, avec les conseils des entraîneurs.
Clairement, moi, si je gagne à Rio, je suis entraînée, mais si je gagne à Rio, c'est parce que j'ai mon entraîneur qui est là, mes entraîneurs, parce que j'ai mon entraîneur du quotidien, et au jeu, j'avais l'entraîneur fédéral. J'ai Marie-Amélie Le Fur, qui était ma collègue de chambre et qui est mon amie.
Sympa.
Et du coup, avec laquelle on a vécu en fait cette Paralympiade ensemble, et on s'est supporté l'une l'autre, et ça fonctionne en fait. Le soir, quand on dormait, on s'endormait en se disant des phrases positives et en se disant on va le faire, parce que voilà, elle avait ses objectifs, moi j'avais les miens, et on avait un objectif commun qui était toutes les deux de réussir en fait. Donc c'est
la, la chambrée, c'est important, la chambrée,
c'est super important.
On est là en jeu par exemple, on partage son logement avec combien d'athlètes?
C'est des appartements souvent. Ouais. C'est des appartements de... et tu peux avoir 2 ou 3 chambres dans l'appartement.
Tu sais déjà avec 6, qui tu vas être ou pas?
Dans ma chambre directe?
Oui, enfin, je veux dire, non.
Dans l'appartement?
Oui.
Dans l'appartement, non, je ne sais pas, parce que là, on va savoir, nous, en para-athlétisme, le nombre de places qui est octroyé à la France. Et on devrait être peut-être... En tout cas, il y a 10 filles qui ont fait les minima requis pour pouvoir aller au jeu. Moi, je sais que dans ma chambre directe, je sais qui j'aimerais avoir dans ma chambre directe, ça c'est sûr.
On peut faire des souhaits, on peut faire des
vœux. Oui, bah, il vaut mieux. Hein.
Ouais, on peut
parce
demander.
Que s'ils nous mettent avec quelqu'un avec laquelle on ne s'entend pas, ouais. Ça peut être un peu compliqué. Quoi.
Comme donc, qui, par exemple, c'est le mec
que j'aime. Non, il n'y a personne que j'aime pas.
Donc on peut y mettre des souhaits.
Oui. On peut surtout choisir, pas y mettre des souhaits, choisir. En fait, il y a des chambres qui sont proposées et après, chacun se débrouille.
On s'est plutôt bien fait.
Oui.
Revenons aux Jeux paralympiques. D'abord, pour vous dire que Nantenin m'avait dit, m'avait prévenu. C'est moi ça, pourquoi je suis là, moi?
C'est toi aux Jeux paralympiques? Waouh.
Ah, t'as trouvé une vieille vidéo. Ouais, parce qu'à une époque, avant de voir le jeu vidéo, je faisais beaucoup de courses à pied et de triathlon. Donc ça, c'est des images de ma vie d'avant. Maintenant, je suis derrière mon clavier toute la nuit. Ouais. Du coup, j'ai pris un peu de bedou. Restons sur les Jeux paralympiques. Il faut savoir que Nantenin m'avait dit avant le stream, Samuel, si tu oublies de parler des Jeux paralympiques, je te fais une clé de bras et je m'occupe de toi direct. Et je serai là pour te le rappeler. Alors heureusement, tu n'as pas besoin, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. On parle beaucoup d'insertion des personnes en situation de handicap sur ce stream.
Pourquoi inclusion?
Pourquoi insertion? Inclusion.
Je préfère. Après, ouais,
c'est pas insertion, c'est inclusion. Alors, ça se passe sur plein de secteurs. D'ailleurs, à l'école, bien sûr. Alors, doucement, on progresse en France. Doucement. Il y a des progrès, au niveau scolaire, par exemple, mais qui sont insuffisants. Dans le monde du travail, bien sûr, l'inclusion qui progresse, mais doucement, voilà. Dans les transports, et là, peut-être que ça progresse, mais je trouve que ça progresse vraiment trop doucement. Il suffit de prendre l'exemple d'une ville comme Paris, pour voir que après, c'est quand même problématique.
Après, c'est vrai que c'est problématique sur les transports, excuse-moi, je te coupe.
Ouais, mais c'est important, je veux bien que tu m'en parles.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que depuis plusieurs années, on ne s'intéresse pas que au handicap physique. L'adaptation.
Oui.
Ne concerne pas que les personnes à mobilité réduite.
Je comprends ce que tu veux dire.
Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que pendant très longtemps, on disait mais si, telle station est adaptée. Oui, elle est adaptée pour 3% des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Et tous les autres étaient mis de côté. Et là, on voit que c'est adapté pour les personnes malentendantes, c'est adapté pour les personnes malvoyantes, pour les personnes même qui vont avoir un trouble 10. Enfin, et ça, je trouve que c'est quand même une belle avancée.
Ça commence à faire son apparition?
Oui.
En France?
Oui.
Au niveau des transports.
Ouais.
Quelqu'un dans le chat me dit ça dépend beaucoup des villes. Mm-hmm. Aussi.
Ça dépend beaucoup des villes.
Toi, ton handicap, c'est au niveau visuel?
Oui.
Hein, c'est ça?
Oui.
Il se caractérise comment?
Alors, c'est assez difficile de l'expliquer parce que, si je veux faire vraiment simple, c'est comme si j'avais une très très grosse myopie qu'on ne pouvait pas corriger. Okay. Donc, en gros, au-delà de 2 mètres, je vois plus. Là, par exemple, ton écran, je ne le vois pas. Ouais. Enfin, je vois du blanc et du noir.
Mais quand on te voit courir, en fait. Ah, oui. Moi, j'ai vu certaines de tes courses.
C'est vrai que c'est...
À aucun moment, on a l'impression que tu es gêné visuellement. Comment tu arrives à compenser?
Je peux te dire qu'à la fin de ma course, je ne vois plus rien.
Comment tu fais ça? Moi, je trouve ça surréaliste. Quand tu me dis, je vois en rouge, je ne vois pas à 2 mètres. Et quand je vois tes courses à 400 mètres, il y a des lignes en plus.
Ouais.
Il y a des lignes à respecter. Ouais. Concrètement, comment tu fais?
Après, j'ai la chance de bien voir les contrastes de couleurs.
D'accord.
Donc, par exemple, les pistes, elles sont en général rouges ou bleues.
Ouais.
Et il y a des couloirs qui sont tracés en blanc. Et ça me permet de me repérer à peu près sur la piste. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que plus je vais aller vite, moins je vais voir.
Oui.
Plus je vais être fatiguée, moins je vais voir. Okay. S'il y a trop de soleil, c'est compliqué. S'il n'y a pas assez de soleil, c'est compliqué. Si la piste est mouillée, c'est compliqué.
Okay.
Donc, et s'il y a un environnement qui est un peu brouillon, je ne sais pas comment expliquer, si ça cogite un peu partout, si ça bouge un peu partout.
Dans un stade, par exemple, avec du monde. Oui,
mais en fait, comme ils sont loin...
La panoptique, etc.
Voilà, ça peut... Par exemple, à l'INSEP, quand il y a beaucoup de monde dans la halle, l'INSEP, c'est mon lieu d'entraînement, quand il y a beaucoup de monde dans la halle, pour moi, c'est hyper compliqué parce que moi, j'écoute beaucoup et je vois avec mes oreilles, en fait. Et quand il y a énormément de personnes, ça brouille, en fait, tout mon ressenti.
Et sur la piste violette...
Justement, le chat en parle, tu as raison... Théo, là il y a une piste d'athlétisme qui a une couleur particulière, c'est ça?
Pour le Stade de France,
elle est violette.
Elle est violette, ouais.
Donc est-ce que tu t'es déjà posé la question sur comment tu gères cette piste violette là?
Je sais, non.
Non,
mais en fait, elle est violette avec des lignes tracées en blanc.
Donc ça devrait aller.
Anna a essayé d'ailleurs de le retranscrire en image dans son film un peu la perception
l'acuité
visuelle de Nanto.
En fait, on s'était posé la question avec le chef opérateur sur en fait peut-être faire une séquence pour montrer la vision de Nantenin. Et donc, on s'était appelé, je me souviens, tu m'avais dit, mais je ne peux pas t'expliquer, ça va être trop dur de le faire.
Bah oui.
Et on avait trouvé un objectif, une sorte d'objectif qui ramène vraiment du flou à l'image. Et on essayait de courir aussi vite que Nantenin avec la caméra pour pouvoir un peu retranscrire tout ça. Mais...
C'est toi qui as couru?
Pas du tout. Absolument pas. Mais non, non, mais c'était très drôle d'ailleurs ces plans-là parce qu'en fait, Nantenin, elle regardait le chef opérateur, elle disait, bah, dis donc, t'es pas prêt d'être champion, toi. Ça, quoi. Ça, c'est vraiment, il était avec la caméra de 40 tonnes. Et non, mais c'était un choix, c'était un parti pris qu'on a, en fait, qu'on a fait pour personne d'autre en fait dans le film.
Voilà. Est-ce qu'un pays comme la France fait mieux aujourd'hui qu'il n'a fait sur, pour les para-athlètes, pour le parasport?
Ah bah,
pour,
oui. Oui, oui, honnêtement.
Toi, ces progrès, tu les vois, tu les as vus?
Moi, je les ai vus. Moi, j'ai commencé aux Jeux de Pékin. Alors, déjà, sur les Jeux d'Athènes, moi, j'y étais pas, mais sur les Jeux d'Athènes, ce qu'il faut savoir, c'est que les primes à la médaille n'étaient pas les mêmes entre les Olympiques et les Paralympiques. Les Olympiques, je sais plus exactement, je sais pas si tu te rappelles, mais en tout cas, c'était. Si les Olympiques, c'était 50 000, les Paralympiques, c'était 5 000 la médaille d'or.
Okay.
Donc déjà, il y avait une grosse différence là-dessus. À partir de Pékin, les médailles, les primes à la médaille ont été les mêmes. Mais même en termes de reconnaissance, alors il y a encore beaucoup à faire, hein, ça je le dis pas, mais il faut quand même noter, moi je vois, hein, de Pékin à Paris aujourd'hui, il y a une belle évolution. On est là, tu as une Elia que tu as accueillie. Ouais. Voilà, on est vraiment inclus dans le visage, on va dire, des sportifs. Et ça, c'est quand même assez chouette. Et je pense que le fait que Londres ait fait un gros pas sur les Jeux paralympiques en 2012, bah, ça a beaucoup aidé. Et là, le fait qu'on ait les Jeux à la maison, bah, finalement... obligé, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ils peuvent plus faire sans les Paralympiques. Parce qu'on ramène énormément de médailles, parce qu'on a des histoires à raconter, parce que humainement, ben, on a des choses à partager, on a des valeurs, et qu'on est des sportifs de haut niveau, tout simplement, en fait. Donc c'est très difficile de faire sans nous.
Oui, et puis ça permet aussi d'ouvrir pour... c'est un héritage aussi, c'est l'héritage que se doit Paris 2024, et ça permet aussi d'ouvrir... le champ des possibles à des enfants, à des personnes en situation de handicap qui se sentent des fois isolées. Et là, ils peuvent peut-être se dire, bah non, finalement, pourquoi j'y arriverai pas? Parce que là, t'y es arrivé, toi t'y arrives, donc on a mis des choses en place. Donc c'est bien de pouvoir, en tout cas, capitaliser sur Paris 2024, en tout cas, et de continuer, voilà, poursuivre sur cette lancée. C'est sûr que tout n'est pas parfait, mais en tout cas, il y a quand même de belles avancées. Comme tu le dis, Londres a vraiment mis un gros coup d'accélérateur, vraiment pour ceux qui étaient aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres.
On a aussi un rôle à jouer,
bien sûr,
sur les places à prendre, à acheter pour les Jeux Paralympiques, sur les audiences des programmes qui vont être proposés.
Il y a beaucoup de choses à faire encore, énormément.
Si citoyennement, bah, nous, on s'intéresse plus, si on regarde, si on se déplace, si on va voir, ça bénéficiera aussi au sport paralympique.
Après, j'ai envie de dire que c'est au-delà même du côté citoyen. Aller voir, pour moi c'est pas un acte citoyen d'aller aux Jeux paralympiques, parce que tu vas aux Jeux paralympiques, c'est pas la BA en fait, c'est plus ça que je veux dire, tu vas mais en fait c'est ça, tu vas voir de la performance.
Oui, moi quand je te vois courir, je trouve ça très beau.
Ouais, tu vas voir de la performance, tu vas voir du sport, tu vas voir des athlètes réussir, échouer, tu vas supporter des Français, parce qu'on va être beaucoup quand même, et tu participes à quelque chose d'historique quand même, parce que là ça va être les premiers Jeux paralympiques d'été organisés en France.
Oui.
Donc c'est quand même un truc de dingue. Et les places en plus ne sont pas très chères. Quand tu payes 25 euros pour aller voir une finale paralympique, peu importe le sport, eh bien, enfin, ça vaut le coup quand même. Et dans le paralympique, tu vas avoir des sports que tu n'as pas en olympique. Et ça, je trouve que c'est aussi notre valeur ajoutée. Donc voilà.
Je crois qu'il reste des places un petit peu.
Il en reste beaucoup.
Je crois qu'il en reste. C'est sûr qu'il en reste. Mais tu vois, ce qui est chouette, je trouve qu'on passe un peu aussi le pas de. Avant, on regardait les Jeux para parce que c'était. Il y avait des belles histoires. Parce que tu vois. Alors que là, maintenant, on parle plus du. Il y a de la performance. Il y a de la performance sur les Jeux para. Et donc je trouve que, tu vois, moi, en tant que spectateur, moi, je fais plus le shift sur les deux dernières Olympiades que aussi avant. Moi, j'avais une autre question par rapport à ta catégorie, parce que c'est aussi une question qui se pose beaucoup sur les paras, c'est les catégories, parce que tu as ceux qui sont malvoyants, ceux qui sont non-voyants complètement. Du coup, toi, et du coup, comment est-ce que dans ta catégorie, on choisit, comment est-ce qu'on qualifie les personnes dans ta catégorie?
En fait, il y a des médecins ophtalmo qui nous font passer des tests. On passe aussi des tests à l'hôpital. Et après, ils nous font passer des tests de vision. Et moi, dans ma catégorie, il faut voir entre un 1/20 et un 1/10.
Okay.
Voilà. Ceux qui voient plus d'un 1/10, ils sont pas éligibles. Et ceux qui voient moins de 1/20, ils sont dans la catégorie en dessous. Donc la catégorie intermédiaire. Mm-hmm. Parce qu'il y a trois catégories chez la déficience visuelle. Il y a les non-voyants, il y a les malvoyants, ce qu'ils appellent profonds, et ensuite il y a les malvoyants, et ma catégorie, la dernière, la T13. Et en fait, la catégorie intermédiaire a le choix de courir ou pas avec un guide. Donc une personne qui va courir avec elle. Et les non-voyants, bah, ils n'ont pas le choix, sinon ça ferait des strikes. voilà. Donc, voilà,
j'ai fait ça, moi j'ai accompagné, j'ai fait une expérience pour un tournage où je courais, où j'étais guide.
Moi aussi, j'ai testé, mais en étant guidé.
Oui, et c'est incroyable comme sensation de devoir coordonner ton corps avec le corps avec qui tu es au niveau c'est super comme expérience.
Trouver les repères, ouais,
c'est très fort.
Complètement d'autres repères qu'il faut que tu ailles rechercher. Ouais. Mais les frères.
Et c'est aussi un moment de partage qui est vraiment très, 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 très fort.
Mika et Bassa, leur salle d'escalade, hein, c'est pas pour faire de la pub pour leur salle d'escalade, mais ils essayent de l'adapter également. Ils sont en train de faire toutes les adaptations pour qu'un athlète en situation de handicap.
Cette salle, elle est où d'ailleurs
À Colmar.
À Colmar.
Puisse aller grimper comme un athlète. Et d'ailleurs, Nanto y est allé et allé s'essayer à l'escalade de vitesse avec Bassa.
L'escalade de vitesse, l'escalade. Mais c'était génial et c'est vrai que c'est ça aussi quand tu disais on est tous acteurs finalement de l'inclusion et du sport pour tous. Quand je vois moi des frères Mawem qui dans leur salle d'escalade tentent de mettre en place des choses pour que des personnes à mobilité réduite ou qui ont plus de force dans leurs jambes puissent quand même grimper et leur offrir cette expérience là, moi je trouve ça génial en fait. Et oui, on a tous un rôle à jouer dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit dans le sport, dans le monde du travail et dans l'école.
En tout cas, il y a Antoine dans le chat qui est allé prendre des places, là, qu'on a convaincu et qui allait prendre ses places. Ouais. Moi, mon épouse m'a dit ça aussi. Elle m'a dit, parce que nous, on sera à Paris pour les Jeux, du coup. Mm-hmm. Elle m'a dit, mais tiens, est-ce que... Moi, j'aime bien le sport à la télé, parce que je trouve qu'on voit mieux, enfin bref.
On voit mieux, mais on ne vit pas la même ambiance.
Voilà, c'est ça. Ouais, moi, je ne suis pas un grand spectateur. Je vais rarement en physique, en présentiel. C'est un univers que je connais assez mal. Mais là, par exemple, elle m'a dit, tiens, on devrait aller voir les Jeux paralympiques, donc on va se renseigner, mais s'il reste des places, tant mieux. Je vais aller voir ça. Je surveille l'heure aussi, parce que on approche doucement, ça, il nous reste encore un petit peu de temps, parce que je vois aussi qu'on parle du documentaire. On a vu deux extraits, on a vu un extrait au début, qui présente un peu l'ambiance, on a vu l'extrait aussi où on te voit.
Avec Audrey.
Avec Audrey, moment un peu fort. Il y a un autre moment, toi, qu'on peut peut-être essayer de retrouver, d'ailleurs, un moment que tu as... dans ton documentaire, que vous pouvez voir en tapant pour l'exclamation « docu » ou « documentaire » dans le chat, et hop, vous avez le lien, c'est sur France Télévisions. Il y a un moment qui est un moment un peu préféré pour toi ou pas ?
Ouais, la fin, en fait. Mais c'est après, peut-être...
La fin ?
Ouais, la toute dernière...
Du coup, essayer de la caler. C'est quelle séquence, en fait ?
C'est vraiment, je pense... j'ai pas le timing exact,
mais je pense
que ça doit être... en fait, quand ils parlent tous de ce que veut dire la famille pour eux.
Quand ils sont autour de la table au moment du repas
c'est la dernière séquence.
Oui, c'est la dernière séquence.
Si tu me montres, j'arriverai à le...
Jo va nous caler ça, parce que j'aimerais qu'on regarde encore un extrait, ce qui a permis de parler aussi de la façon dont...
Ouais, c'est un peu avant ça, exactement.
Avant ? Merci, Jo,
voilà,
super.
Un peu avant, Non, un peu après, pardon.
C'est un stream de précision, on règle la frame. Ça, c'est le jeune gymnaste dont je parlais tout à l'heure.
Encore un peu.
Là, c'est la...
Voilà. Je pense que là, ça va.
Bon, peut-être sur l'élève extrême, vous en pensez quoi ? On fait ça ?
Allez.
J'espère qu'on ne va pas pleurer.
Je suis obligé de faire comme ça.
T'inquiète, Joe, t'inquiète. Prends ton temps.
Là, c'est un peu improvisé. Plus différente et plus sacrée de la cohésion.
Bah, une famille, ce sont des personnes qui se soutiennent, qui s'accompagnent. Voilà.
Qui s'entraident, qui sont présents à n'importe quel moment.
Surtout
Tout le temps, quoi.
Ce qu'on souffle, tu vois. Ce qui permet de me maintenir en condition à chaque fois. Je veux dire, c'est mon oxygène, on va dire.
C'est apporter son soutien, être tolérant, et puis transmettre quand on peut transmettre, en fait.
Pour moi, une famille, c'est des gens avec qui on est soudés, avec qui on se pose pas de questions. Avec qui on part à l'aventure aussi. C'est un peu comme des amis, en fait, parce que moi, mes amis, c'est ma famille aussi.
Tu fais famille en créant ta famille ? Pour moi, c'est un engagement choisi. Peu importe le tremblement de terre ou la tempête qui peut te passer dessus, tu finiras forcément par te relever avec ces gens-là et t'avanceras.
Pour moi, une famille, c'est comme un arbre. T'es sur l'arbre. Pour grimper, t'as des branches. Des fois, tu grimpes et tu vas t'aider des branches les unes des autres pour grimper là où tu veux aller. Des fois, t'as envie de t'asseoir et de rien faire, tu te poses sur une branche.
Des fois, tu tombes un petit peu, mais tu peux te rattraper avec la branche en dessous. Et des fois, une famille, ça pique. Comme un arbre et des branches, en fait, ça peut aller dans tous les sens, mais il y a toujours un tronc commun qui fait que, quoi qu'il en soit, vous êtes toujours reliés d'une manière ou d'une autre.
Voilà, ou si quelqu'un jetait des oignons. Voilà. Mm-hmm. Je suis content d'avoir posé la question parce que cette séquence, elle est magnifique. Voilà. Ouais, et la métaphore de l'arbre,
moi, ça, à chaque fois,
et l'illustration.
On a envie de pleurer, moi.
C'est magnifique. Ouais,
mais et la conclusion de Nanto, là, à la fin, c'est. Enfin, voilà, ça a été vraiment. Enfin, c'était magnifique, quoi. Je suis trop contente d'avoir posé cette question qui est en fait assez simple, en fait, qui était vraiment. C'est quoi une famille pour toi, quoi? Et c'est venu après, je pense, 2 heures d'interview où ils n'en pouvaient plus. Non,
froid. Vous avez froid.
Moi, j'avais tellement froid.
C'était long?
C'était au mois de novembre,
j'en pouvais plus, j'avais trop froid. Ouais, ouais. Heureusement que l'équipe était cool, parce que franchement... non, franchement, j'en pouvais plus.
Parce que pourquoi? Parce que pour un moment arriver à certains mots, il faut un peu de temps d'échange avec l'athlète,
en fait,
c'est ça?
Ouais, c'est-à-dire que comme... Moi, j'avais vraiment pas beaucoup de temps, en fait, avec eux. Je leur avais très peu parlé avant. Mmh. T'es journaliste, tu vois comment ça se passe. Faut quand même un petit peu faire un gros travail d'enquête avant d'interviewer des gens. Et donc, en fait, je me suis sécurisée avec ces interviews en me disant que ça allait être une discussion.
Bien sûr.
Pour pas penser, en fait, des questions un peu toutes faites. Et d'ailleurs, on en a ri, en fait, avec certains athlètes et même avec toi, je me souviens. Parce qu'en fait, il y a des questions qu'on leur pose tout le temps, enfin les mêmes, c'est quand est-ce que t'as commencé, pourquoi, pour qui, etc. Donc,
ah bah toutes les questions que t'as posées ce soir.
Non.
Voilà,
et que j'ai posées aussi, donc tu vois, comme quoi, voilà.
Et un documentaire comme celui-ci, c'est ça, combien de temps ça prend de préparation, de tournage
Ben là, c'était assez speed quand même. Enfin, on a commencé à écrire en août dernier.
Ok.
Et on est parti en tournage.
À partir de début novembre.
Ouais, début novembre. Mais il y a eu, en fait, pendant tous ces moments en fait d'écriture, il y a eu le choix des athlètes, le choix des destinations. La négociation des voyages.
Est-ce qu'on va à Tahiti?
Est-ce qu'on va à Tahiti? On va à Tahiti, etc. Non, en fait, il y a eu quand même 2-3 mois pour que tout le monde s'accorde, en fait, sur ce qu'on voulait dire et quels athlètes allaient incarner ça, en fait.
On a tourné entre novembre et février, donc pour 11 athlètes, c'était quand même assez un rythme assez soutenu, dense, quoi.
À quel point est-ce que tu écris avant et tu adaptes aussi, évidemment, en fonction de ce que te donnent les athlètes aussi, tu vois, parce que tu vas, j'imagine, avec des idées, et puis en fait, tu te rends compte que bah, y a un truc, bah, une phrase, une discussion qui t'emmène sur un truc que tu n'avais pas prévu, anticipé.
Bah, en fait, après, c'est... Enfin, moi, c'est la première fois que je réalisais un documentaire aussi écrit. Mmh. C'est-à-dire que toutes les séquences qu'on voulait tourner étaient écrites, calibrées, on savait à quelle heure on allait le faire. Okay. Alors que moi, je viens plutôt d'une école documentaire, où on va filmer pendant des mois, concevoir des histoires, au montage, etc. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est que je me suis dit, mais en fait, je veux que travailler comme ça maintenant. Et non, la seule chose que je maîtrisais pas finalement, c'est ce qu'on allait se dire en interview. Mais c'est pas l'exercice où je suis le moins forte, quoi.
Ouais, ok.
Donc ça allait. Et puis surtout, en fait, j'ai rencontré des athlètes trop sympas, quoi. Enfin, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, vous étiez tous super gentils.
Tu dis pas parce que ça, parce qu'ils sont là.
Non. Ah ben si, c'est sûr, évidemment. Non.
Par contre, on a répondu à la personne qui avait en face de nous.
Non, mais vraiment, tout le monde était très bienveillant, quoi. Il y avait pas. Enfin, moi, j'avais une image, en fait, des athlètes de haut niveau comme des footballeurs, en fait. C'est horrible, mais pourtant, j'adore le foot, je regarde beaucoup de foot.
Qu'est-ce que tu entends par là ?
Non, mais je les voyais comme des énormes stars à qui on ne pouvait pas parler plus de 30 secondes, qui avaient des... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je voyais des gens qui, en fait, qui me ressemblaient. C'était un peu comme moi, quoi.
Ouais, et puis après, ça a été... ça aussi été un travail parce qu'on a aussi apporté le projet aux athlètes. C'est comme le Team Athlète, en fait, ce documentaire, ça a été un peu pareil. On a apporté le projet, on a expliqué le projet, pourquoi on voulait ce projet et est-ce que tu adhères ou pas aussi en fait, au projet.
Vrai.
Ça a aussi été... on a aussi parlé à chaque athlète, etc. Et l'alchimie
non,
aussi.
Et puis c'est toi aussi dans le choix aussi des personnes que tu as. Enfin, c'est un peu ce que tu m'as dit aussi en interview où tu me disais, moi en fait, évidemment, il y a le parcours, l'originalité du parcours, la performance, mais il y a le côté humain, quoi. Tu vois, c'était. Moi, et ça se ressent.
Mes séquences qui m'ont le plus, c'est les séquences du repas. Parce que je suis gourmand, mais aussi parce qu'en fait,
c'était très bon d'ailleurs.
Il y avait des moments vraiment très touchants, très forts où on voit que. Finalement, chacun est très curieux aussi de la parole de l'autre parce qu'il sent que dans cette parole, il peut y avoir un soutien, un conseil, une compréhension de ce que les athlètes vivent.
Mais là, c'était très drôle pour ce repas, justement, parce qu'en fait, moi, je m'étais dit, on va rythmer le repas, on va faire des sujets de conversation. J'ai essayé de faire ça pendant 4 minutes. Et c'est-à-dire qu'ils m'ont tous regardé en disant « Tu vas me laisser bouffer maintenant. »
C'est super bon, on va laisser
non, en fait, ça a été mais un casse-tête en montage parce qu'ils parlaient tous en même temps.
La bouche pleine.
Et en fait, je me suis dit « Mais faut l'assumer, en fait. Faut aller au bout de ce truc parce que c'est comme ça, un dîner en famille. Mmh. » C'est en fait, on se coupe la parole, tout le monde... Mais non, j'ai essayé et à tel point que Johan, à un moment, je lui dis peut-être qu'on pourrait parler de qualification des Jeux Olympiques. Et il me dit pas du tout. Il se retourne.
On va finir le repas et on verra plus tard. D'accord. Et d'ailleurs, en tant qu'athlète, ancien athlète, quelle question vous détestez qu'on vous pose ou qu'on vous a posé des questions ou
ah, c'est une question ça.
Les tips.
Johan, pour commencer.
Pour le futur, pour moi, au cas où j'en ai
d'autres. Ouais, c'est une bonne question ça.
Moi, ça, c'est vraiment la question toute faite de journaliste.
La question.
En fait, qui m'ont déjà été posées, ou le journaliste, je pense qu'il se rappelle de moi. c'était à la fin de mon 400, je pense que ça devait être à Londres, où je finis 4e ou 5e, donc super déçu. Et le journaliste, il me demande, t'es déçu ?
Non, connard.
Ok.
Je lui ai dit, mais vous avez d'autres questions aussi connes ?
Je lui ai dit clairement.
Et c'est marrant parce que deux jours après, je fais le 100 mètres et je fais une médaille de bronze au 100 mètres et je le revois. Et il me regarde un peu fébrile.
Vous êtes contente ?
C'est ça, exactement.
Et là, dernièrement, c'était à Charletti, là, un meeting international. Je finis mon 400, très fatiguée, je l'admets. Et le journaliste me dit...
Le même toujours ?
Non.
Il est de retour.
Et le journaliste me dit, mais je comprends pas, pourquoi vous êtes toujours fatiguée à la fin de votre 400 ?
Ah ouais.
Parce que vous avez déjà couru un 400.
Non, je lui ai dit en fait, allez courir un 400 et vous aurez votre réponse.
Ouais, c'est donc,
le journaliste, c'est une activité humaine.
C'était mignon un peu, mais
faillible.
Mais le premier, il m'avait un petit peu agacé, je dois admettre.
J'avoue,
moi, il y a deux choses, des fois, qui peuvent m'agacer. C'était la veille d'une course où on vient de dire, bon alors, c'est bon, t'es prêt ? Normalement, c'est bon, t'es prêt ? Ouais. Puis alors souvent, ou des fois, ça peut être dans des encouragements aussi. Tu sais, t'es pas prêt ou t'es même pas dans ta course et t'as pratiquement fini et t'as les gars sur le côté où personne, ils sont là, ils se disent « Bon allez, faut y aller maintenant !» Là, tu te dis « Ouais, faut y aller maintenant !»
Des fois, tu sors des trucs,
je dis « Ouais, c'était assez terrible. »
Pour la petite anecdote, chaque destination où on est allé, quelqu'un reconnaissait Johan.
Ah bah oui.
Mais chaque destination, c'est-à-dire même dans le fin fond de Tahiti, mais vraiment de la Polynésie, il y a un type qui dit « Toi, t'es le marcheur !»
Le chanton de pirogue de la Polynésie.
Non, excellent. Star mondial, quoi.
Mais c'est vrai que Johan, il a fait découvrir la marche, finalement. Mm. Il a rendu la marche athlétique... intéressante et belle, enfin, si je peux m'exprimer un peu comme ça. C'est vraiment ça, en fait, personne ne s'intéressait à la marche avant Johan.
Puis je crois qu'il y a un truc avec Johan, les moments où on te regardait, c'est à quel point tu allais au bout des choses et à quel point tu allais au bout de toi-même. Et on se disait, mais...
C'est ça qui touchait les gens.
En fait, moi, j'avoue que c'est là ce qui m'a scotché, c'est-à-dire que la marche, moi, je regardais ça vraiment que quand il y avait toi pour les championnats d'Europe, championnats du monde, championnat olympique. Et ces moments où vraiment il y avait ce côté très humble, mais... où tu montrais une force de caractère sur 50 km en allant vite, en t'accrochant jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça, moi qui m'a touché, je pense qu'il a touché tellement de gens, tellement de gens. Et du coup, quand tu deviens champion du monde, quand tu bats le record du monde, etc. Enfin, moi, j'étais, c'était, enfin, moi, j'arrivais vraiment à beaucoup m'identifier à toi, quoi.
Ouais, bah, c'est un peu ça. Je pense que beaucoup de monde, et puis après, se sont identifiés un peu à ça, à une forme de résilience dans un sport simple, en fait, avec que tout le monde peut pratiquer.
Ouais, il y avait un peu ce truc-là.
Essayer de mettre des valeurs communes un peu à tout le monde, quoi, de résilience, d'aller au bout de soi-même, de ne pas tricher. Je pense que je n'ai jamais triché, je suis tout le temps allé au bout, mais au bout de ce que je pouvais faire. Quoi.
Est-ce qu'il y a des fois où tu allais trop loin aussi ?
Ouais, bien sûr. Rio, je suis allé beaucoup trop loin, mais c'est ce qui m'a permis d'être champion du monde l'année suivante. Rio, je finis à l'hôpital, on ne refait pas l'histoire. Et d'ailleurs, deux semaines après, je suis invité en Chine pour aller faire un espèce de tour de Shanghai. Je dis, bon, allez, j'y vais, j'ai récupéré, tu parles. Un jour, je devais faire 15 km. Je finis avant-dernier de la course, mais avant-dernier, il y avait les hommes et les femmes qui marchaient ensemble. Sur 15 km, il y a encore un peu d'écart quand même en termes de vitesse. J'ai fini avant-dernier de tout le monde. J'ai terminé avec la dernière fille. On était tous les deux. On a fini. J'étais vidé complètement au possible. J'avais vraiment tout donné à Rio. Et ouais, c'était beau. Mais je me souviens en fait de cette image au village où c'est Nicolas Karabatic qui est venu m'accueillir à la sortie de l'ascenseur, hein, qui m'a ramené pas loin de la chambre. Il y avait Kevin aussi qui était là. Et voilà, qui m'a dit bravo, quoi, tu vois, bravo, bravo. Et tu vois, t'es allé au bout de. Au bout de ce que tu pouvais faire, quoi. Et donc, t'avais pas la médaille, mais c'était.
Ça vaut presque une médaille.
Pour moi, ouais, ça vaut presque une médaille. Ouais. Et la reconnaissance, en fait, c'est. Voilà, en 2021, quand tous les athlètes, ils sont venus me voir, et même les entraîneurs, etc., ils m'ont dit, Johan, en fait, merci pour ce que t'as fait pour notre discipline, en fait. Merci pour ce que t'as fait pour ton discipline, parce que t'as jamais triché.
Il y a plein de messages.
Et ça, c'était. Pour moi, c'était une forme de médaille olympique, tu vois, la reconnaissance de mes pères.
Quelques messages, et les pseudos qui vont avec, parfois des blagues, parce que moi, j'aime l'humour de Twitch. Harry Cover. Moi, j'ai grandi devant Johan Diniz, vraiment. Original Pimousse, c'est bien simple. Avant même, je ne marchais pas. J'ai découvert la marche avec Johan. Il y a beaucoup de blagues en ce sens. J'ai connu la discipline grâce à lui, Aaron Deal. Il a inventé le fait de marcher, même parce qu'avant, on rampait tous. C'est vrai qu'on te doit ça, notamment.
On a tous commencé entre 10 et 12, 13, 14 mois, normalement, à marcher. Hein.
Voilà, donc effectivement.
Je l'ai fait marcher dans toutes les villes, d'ailleurs.
Voilà, non. Ça, c'était, ouais.
C'était la blague. J'ai des vidéos, j'ai fait marcher.
Non,
il n'y en a pas le making of.
Ah, mais non, mais
j'aurais dû le mettre dans le making of, mais vraiment, des plans même sur des ponts, mais des trucs improbables.
Pour les crédits à la fin, juste dans tous les endroits où il doit marcher.
Ça, tu ne l'as pas trop mis, ça, dans le doc Johan en train de marcher
non,
dans les.
J'ai pas eu le droit de faire ça.
Dommage. Et parce que 52 minutes, on doit faire des choix, je suppose que.
Ah ouais, ça a été très dur.
C'est un des trucs compliqués au montage, quoi.
Ouais, c'était.
T'as combien
de temps c'est ça. Non, mais non, Johan, très
bien. En fait, je sais pas du tout, mais j'ai lu sur un communiqué de presse qu'il y en avait 600. Donc je me suis dit, waouh,
c'est ce que tu dis.
Ouais,
600 heures de rush.
Alors, est-ce qu'on a un peu exagéré? Mais en même temps, ça m'étonne pas, quoi.
600 heures. Là, on a 52 minutes, on va dire qu'il y a une heure. Donc, t'as 600 fois la matière finale. Waouh!
Faut bien sélectionner.
Jo, t'as mis une petite crème que j'ai ratée là.
Mais en fait.
Si, t'as mis une image parce que les gens rigolent. Vas-y, fais, répétez.
Il assume plus, il assume pas.
Parce que Jo, il fait des petites blagues. Il
assume pas, Jo.
T'as mis quoi? T'as mis un rayon? T'as mis une étoile?
Non.
T'as mis quoi?
Attends, tu vas voir la roue?
Oui. Qu'est-ce que t'as mis? T'as mis une petite blagounette? Je le sais.
Mais j'ai remis un truc que j'ai
mis. J'ai encore mis moi dans mes œuvres sportives. Ça fait rire tout le monde à chaque fois.
Ah ouais.
Ah oui, bien sûr. Malcolm. Moi, j'avais pas la ref, mais manifestement, ça parle beaucoup dans le chat. C'est quoi son casque là?
C'était des casques de vitesse un petit peu, quoi, voilà. J'imagine.
Oui, mais un peu.
Vous en mettez pas pour la marche, quoi.
Oui. Bon, j'ai pas la ref, mais je pense qu'il faut que je rattrape mon retard là-dessus. 600 heures. Alors, donc le
mais après, en fait, plus il y a de rush, plus on est organisé aussi dans la façon de regarder.
C'est-à-dire, tu sais ce que tu veux aller. En gros, tu sais
non,
que tu
mais
c'est-à-dire
qu'on va pas regarder. Enfin, on va pas passer. Parce qu'on avait très très peu de temps en fait, de montage. On avait 6 semaines, quoi. Ce qui est
c'est pas beaucoup.
Ah, mais c'est rien du tout.
D'accord.
C'est rien du tout. Et je crois qu'on a un peu débordé, mais. Ouais, pour un 52 minutes, c'est un peu.
C'est pas grand chose.
C'est pas grand chose.
C'était ton premier documentaire.
Et c'était mon premier en plus, ouais,
sport.
Exactement.
Ça faisait beaucoup de premières.
J'ai fait des reportages en fait, mais j'étais pas. C'était même mon premier long métrage documentaire.
D'accord.
J'avais fait plutôt des courts métrages documentaires.
D'accord. Et de la fiction aussi, je crois.
Et j'écris un scénario de fiction parce que j'ai fait l'atelier scénario de la FEMIS pendant un an.
Trop bien. Voilà. Donc d'un long métrage, d'un...
D'un long métrage qui se passe à l'île de la Réunion, dans la communauté indienne de ma mère.
Ok. Voilà. Ah ouais. Et qui
est une comédie qui n'a rien à voir.
Et il y a un tournage prévu ?
Pour l'instant, il est en développement.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Je viens tout juste de sortir en fait de la FEMIS, donc
okay.
J'ai tout fait en même temps moi cette année. J'ai fait ça, j'ai fait le documentaire.
Plus un petit garçon à la
plus
maison.
Plus un petit garçon, ouais. Voilà.
Bah, qui regarde peut-être quoi que.
Pas du tout, non. Il regarde pas d'écran.
Ah ouais. Même quand c'est maman sur Twitch. Ça,
ouais non ouais. Mmh.
Bon, je ne le salue pas, alors.
Bon, si je le fais, je te montrerai en replay dans quelques années.
Et on te fait un grand coucou, petit bonhomme. Voilà. Mmh. Alors, je ne le fais pas beaucoup quand j'ai des invités, mais c'est pour vous expliquer. Parce que c'est votre premier stream à tous, notamment Rivendi, tu découvres vos tweets
c'est
ce soir.
C'est mon premier, je trouve ça fou, hein, c'est voilà, beau.
C'est un super outil.
Super plateau, super bravo, j'adore.
Et en fait, je vous ai montré, bon, il y a le chat, effectivement, que j'avais sous les yeux. Il y a les gens qui nous regardent, qui interagissent, souvent avec beaucoup d'humour, moi c'est ce que j'aime. Et puis il y a ceux qui soutiennent aussi la chaîne, qui prennent des abonnements, qui s'abonnent à la chaîne pour soutenir la chaîne. Donc je ne remercie pas souvent les subs quand j'ai des invités, parce que je suis plutôt à écouter mes invités. Mais je remercie Tara Lyon, par exemple, à l'instant, Judoc. Ça permet aussi de lire les pseudos, il y a Petit Poney, voilà. Il y a Eva, il y a Bidibule, il y a Budu, il y a Silent Cheetah, Itty Pitty, Alain Martage, Choupi, ils sont sages les
ouais,
pseudos.
Ouais, ils sont calmes.
Parfois ils sont pas sages. Hein. Voilà. J'ai un de mes modérateurs parmi l'équipe de modération que je remercie. On va les remercier d'ailleurs, Clama Coquine, Étienne, Ephaistos, Julo, Majmi Lambert, MGCTF, Moulbit.
Ah,
eh oui.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de modération?
Non. Bah, la communauté est sympa aussi. Original Pimous, Pépin Camille, Sarah Molly. C'est Sarah Molly.
Bien sûr.
Sarah Molly. J'ai mis quelques mois pour comprendre. Oui, j'ai mis Sugar Frog et Mathieu qui gère la chaîne YouTube, qui est en train de préparer d'ailleurs, qui va poster demain d'ailleurs un petit best-of. Best-of numéro 5, je crois, de l'hebdo. Il nous reste 5 minutes. Il est 19h55. Un mot de vos projets là à venir pour chacun. Je sais que Rive, tu as notamment un été sur France Télévisions.
Exactement.
Tu vas être sur France.tv.
Exactement. Pour présenter les Jeux Olympiques pour France Télévisions.
Let's go.
Donc c'est c'est un rêve de petit garçon parce que moi j'ai grandi notamment devant les exploits de Johan et de.
Regarde, c'est toi là.
Exact. Ah, punaise, il y a ça. Je ne savais même pas qu'il y avait ce visuel-là sur le...
Et si voilà. Sur le site.
Donc, je vais présenter les Jeux Olympiques. Donc, c'est trop bien. Donc, en gros, le rôle, c'est, pour ceux qui connaissent, ce que fait Laurent Luyat sur France 2 et France 3.
Ouais.
Et ben moi, je ferai ce rôle-là pour France TV. Donc, France TV qui aura cette chaîne. Ouais, ça va être super. Donc, cette chaîne qui sera à l'occasion, qui va être pendant les Jeux Olympiques, pas pendant les Jeux Para, malheureusement. Parce que pour les Jeux Para, France TV met une chaîne par discipline. Oui. Donc, vous pourrez suivre l'entièreté des Jeux Para sur France.tv. Mais donc, cette chaîne s'appelle France TV Paris 2024. C'est notamment pour les sports urbains, mais pas que, les nouveaux sports, on va dire. Et donc, moi, je serai pour, on va dire, animer le chat, parce qu'il y aura un chat, faire des sondages, renvoyer vers les commentateurs.
Et tu auras un créneau horaire, je crois.
Moi, je fais tous les matins.
Ouais, tous les matins.
De 8h à 13h, quelque chose comme ça.
Donc, 8h, 13h pendant toute la durée des Jeux, sur France.tv, vous aurez Rivenzi pour commenter les Jeux, quoi.
Et du coup, tu auras des gens avec toi?
Exactement. Ouais, alors moi je serai un peu tout seul à la base, mais je peux inviter des copains streamers.
Ah oui, mais t'as pas des consultants de la discipline.
En fait, l'idée c'est que les consultants qui sont sur les sites olympiques, on est en communication avec eux
D'accord,
et qu'on puisse leur dire voilà, on a une question dans le chat, est-ce que vous pouvez nous répondre. Donc l'idée c'est de. C'est pour ça qu'ils sont venus chercher des streamers, c'est pour aller chercher cette interactivité comme toi t'arrives à faire très bien Samuel, qu'on puisse passer les questions, qu'on ait ce côté, cette interface entre. Les consultants et le chat et les gens qui regardent, donc ça va être chouette.
Bon, moi je suis à Paris. Si jamais tu veux que je passe te voir,
mais avec grand plaisir pour le coup.
Comme j'ai mon badge de France Télévisions,
c'est tout à la maison.
Non, mais ça avec grand plaisir. Mais bravo Riff pour ça, je trouve ça super.
Beaucoup.
Il y a toi, il y a Zach Nani.
Exactement.
Aussi.
Il y a Manon Lanza, également, et Alice Elim qui sera les quatre.
Ancienne,
qui a repris d'ailleurs.
Elle a repris le tennis.
Qui a repris le tennis, ouais.
Ah, je savais
exactement.
Pas. Je savais qu'elle avait joué à assez bon niveau.
Oui, tout à fait. Ouais. Et elle a repris là sur le tournoi futur Challenger.
Ah, ok,
donc,
très bien.
Donc voilà, elle est de retour sur le circuit, mais elle fait une petite parenthèse pour l'été. à l'occasion des jeux.
Parce qu'elle est aussi créatrice de contenu.
Exactement.
Bon, bah voilà un bel été. Rive, et puis de plus en plus de documentaires.
Exactement.
Sur l'histoire.
Tout à fait.
Sur ma chaîne YouTube.
Tout à fait. Voilà. Et donc, en plus du stream. On en prépare un pour fin juin.
Ouais.
Fin juin pour le prochain documentaire. Voilà.
Alors, ça permet ce petit sourire, ça veut dire que ça n'est pas la peine que je lui pose la question.
Non,
sur
parce que
je ne t'en aurais
pas.
Tu vois, ça, c'est le petit sourire qui dit ça.
Moi, j'allais demander.
Et qu'actuellement, on est dans le montage et qu'on s'arrache les cheveux, mais tout va bien.
Ça, c'est un extrait d'un documentaire de Rive un des derniers.
Oui, alors là, c'était quand on était mis 24 heures en soldat de la Seconde Guerre mondiale, soldat français, et que on était dans la ligne Maginot et qu'on faisait des bêtises.
Voilà.
On fait des trucs comme ça, ouais. Tout à fait.
Donc tu disais que la thématique de ton prochain documentaire,
je ne te le dirai pas. Bien essayé.
Anna, projet là, après cette année déjà super chargée.
Bah, en fait, je suis en écriture de beaucoup de projets. Donc là, je suis en train d'essayer de faire par priorité.
Okay.
Mais je suis sur mon long métrage dont je t'ai parlé.
Trop bien.
J'écris une série aussi qui n'a rien à voir, qui est plus un thriller. Et un autre documentaire sportif, mais je ne peux pas te dire sur quoi.
Bah c'est fou, ça. J'essaie de des scoops,
en
mais...
En off, peut-être.
On voit du temps bien chargé aussi.
Ouais, c'est ça.
Antonin, déjà, nous, on va te suivre avec beaucoup d'attention.
Clairement.
Beaucoup de ferveur.
Merci.
Voilà, pour le 400 et peut-être le 100 mètres, bah, toi, ton projet à court terme, il est là.
Ah bah clairement,
il est là.
Moi, il n'y a pas de suspense là.
Non.
Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de...
Ouais, et moi, tu te projettes déjà vers... d'autres choses derrière, sur le plan sportif ou personnel, ou non, t'es tellement focus sur cet événement que pour l'instant, rien d'autre n'existe.
Après, je me projette un petit peu quand même, mais pas trop, parce que j'avais vraiment envie de vivre cet événement pleinement. Et donc, il y a une petite projection, mais pas trop non plus.
Ouais, bah, je comprends ça. Johan, projet ?
Le projet, c'est déjà de suivre mes athlètes, enfin, les athlètes, et puis après, bah, de construire également le futur, quoi, l'héritage de ce qu'on aura pu faire avec ce team athlète, comment on va pouvoir le pérenniser dans la durée, etc. Donc, il y a tout un projet à écrire à nouveau, et puis, parce qu'il faut qu'on puisse continuer à être un acteur, en tout cas, du sport, et moi, j'ai envie de continuer à guider et à pouvoir transmettre ce qu'on m'a apporté pendant mes 18 années de haut niveau avec des athlètes, voilà.
Et
les accompagner dans la reconversion également, dans les projets de société qui sont hyper importants pour moi, qui puissent exprimer leurs valeurs également, leurs causes. Tout ça, c'est super important.
T'as pas prévu de reprendre la compétition? Parce qu'à l'instant, tu nous parlais d'une joueuse de tennis qui allait reprendre la compétition, alors que je pensais qu'elle avait arrêté. C'est pas prévu.
Non, moi, ma compétition, elle est sur d'autres terrains.
Ça m'est jamais arrivé. Parce que bon, au niveau du timing, on est souvent un petit peu souple sur Twitch. Il est 20h. Pile. C'est pas beau, ça?
C'est incroyable.
Bravo. Hein,
moi, je voulais vous remercier.
Anna te dit merci.
Je voulais vous remercier tous les quatre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Samuel, pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Mais
vraiment, c'était un plaisir.
C'était trop sympa.
En plus, voilà, comme je le disais au début de ce stream, au vu de l'actualité politique qu'on vit en ce moment, qui est passionnante, mais qui est aussi un peu anxiogène, un peu très dense. Je trouve que ces jeux qui arrivent, il y a l'euro là aussi, mais il y a les jeux qui arrivent surtout derrière. Je pense que ça peut être aussi un grand moment. Sinon, de communion nationale, en tout cas de partage de quelque chose qui va peut-être nous faire du bien aussi. Donc, je me réjouis de ces Jeux olympiques et paralympiques qui arrivent. Donc, merci à tous les quatre. Merci au chat parce que j'avais les yeux rivés sur le chat comme d'habitude. Parce que vous savez que sur Twitch, ce qui est intéressant, c'est de participer. Et bravo pour vos questions. Bravo aux modérateurs. Merci Joe.
Voilà. Merci Joe.
Merci Joe pour la qualité de la réalisation, pour les petites images que tu vas nous chercher. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Merci à Decathlon aussi, parce que c'est eux qui ont été
merci
à l'origine
beaucoup.
De ce projet de stream.
Ils ont des réductions évidemment sur la tenue, surtout qu'il ne faut pas hésiter à nous envoyer.
Alors, j'ai pas un code promo Decathlon, je suis désolé. Ah, j'aurais bien voulu. Et merci donc à Decathlon qui a permis ce stream et qui est derrière cette team Decathlon. Merci à la moustache de Rivendi, me dit The Fruit aussi. C'est vrai.
Écoute,
c'est vrai.
Elle est là, elle vous remercie également.
Non, moi, je peux pas, j'ai essayé une fois. Mon épouse m'a dit non, ça ne va pas être possible. On se retrouve pour un troisième stream aujourd'hui, tout à l'heure. Je vais rentrer à la maison, qui est pas loin, là. Je vais aller voir mes petits loulous, mon épouse. Je vais dîner avec eux, je vais coucher les enfants et je reviens jouer à Valorant. Voilà. Puisqu'on est passé bronze 2, on n'est pas très loin d'un niveau qui est quasiment un niveau d'athlète, en fait.
Hein, oui. Toi, tu peux leur faire croire à eux, mais pas à moi.
J'approche doucement d'un niveau international. Ça va finir au VCT, ça va venir... voilà. Pour la petite histoire, sachez que l'objectif, c'est de devenir champion du monde sur ce jeu vidéo.
Oui.
Voilà. Bon, et plus j'avance dans le jeu, plus je me rends compte que ça va être compliqué.
Oui, ben, on te l'avait un peu dit au départ.
Mais c'est bien.
C'est ça.
Ouais.
Peut-être champion du monde des EHPAD. On joue de plus en plus aux jeux vidéo dans la maison de retraite. Hein, et ça, c'est une bonne chose d'ailleurs. Et donc peut-être que c'est là que.
Là, tu vas arriver avec un coup d'avance. Ça, c'est sûr.
Merci à tous. On va faire un petit raid. Alors, j'explique à nos invités. Rémi connaît ça par cœur. Le raid, c'est un truc magique de Twitch. C'est un truc sympa de Twitch. Et on est aussi dans le partage. Le raid, c'est ce qui permet de faire basculer tous vos viewers, tous ceux qui vous regardent sur la chaîne d'un autre créateur de contenu, pour venir justement pour faire découvrir une autre chaîne. Ou... Théo, si jamais tu vois
je
quelqu'un...
Regarde, je suis en train de regarder.
Ouais, je suis en train de regarder. Il y a du Valorant, il y a l'actualité. Il y a Domingo qui, est sur, qui vient de démarrer un popcorn délocalisé. Hein. Voilà, je sais où il est pas Montpellier.
Il est à Montpellier. Tout à fait.
Il y a Jean Massier qui est là pour parler d'actualité. Il y a Fugu qui est en train de jouer... à Valorant, il y a Trivia qui est en train de jouer.
Il y a Ultia sur Cyberpunk aussi.
Il y a Ultia sur Cyberpunk, il y a l'embarras du choix, tu vois. Actu. On peut aller voir Jean en vrai. Hein.
On peut aller voir Jean. Hein, bah, Jean. Tu parlais de ça en vrai pour l'actualité.
Jean, c'est
tout,
un passionné d'actualité, notamment l'actualité politique. C'est un
gars
qui maîtrise vraiment ça et qui apporte beaucoup d'infos et d'éclaircissements et de lumière, notamment dans les séquences comme celle-ci. Donc en vrai, tu veux que je m'en occupe
C'est déjà fait.
Alors, un dernier grand merci. Bonne fin de en télé, on dit beaucoup saison. Bonne fin de saison.
Ouais.
Même si certains vont être sur le pont cet été. Hein. Merci du fond du cœur. On se retrouve, qu'il est quelle heure 20h ouais, vers 21h, 21h30, pour mettre des têtes, comme on dit. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup pour le raid.